Donc, on va parler de Pluton, et à quelques exceptions près, toutes les photos que je vais vous montrer auront toutes été prises le 14 juillet 2015. Parce que jusqu'au 14 juillet 2015, on est Pluton qui a une tache floue dans le ciel. Et il y a une sonde, New Horizons, qui est passée. Zouf, elle a fait que passer. En une journée, elle a pris des milliers de photos, elle a fait des analyses diverses et variées. C'était une mission au rabais. C'est-à-dire qu'elle était petite, pas lourde, donc ils n'ont pas pu mettre tous les... au rabais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. Ils n'ont pas pu mettre toutes les appareils qu'ils voulaient, en particulier, ils n'ont pas mis de magnétomètre. C'est très dommage, on ne sait même pas si Pluton a ou n'a pas de champ magnétique. Ils avaient une toute petite antenne grande comme ça. Avec une petite antenne grande comme ça, le débit d'information, c'est celui d'un Minitel dans les années 70 au fin fond de la Haute-Loire. Mais ça, ils le savaient. Donc, pendant ces 24 heures où il est passé près de Pluton, il a tout mis ses données en mémoire. Et ensuite, il les a retransmis au compte-gouttes, comme quand on tapait sur des Minitel roses, rappelez-vous, pour avoir une femme toute nue, il fallait attendre, ça faisait comme ça. Et les dernières données sont arrivées en novembre 2016. Donc, alors les dernières photos sont arrivées en juillet 2016 et les dernières données en novembre 2016. Donc, et tout ce que je vais vous montrer, à quelques exceptions près, ont été faits en 24 heures. Je vais donc raconter en 1 heure et demie 24 heures de survol de Pluton. Il y aura un peu d'histoire avant. Alors l'histoire, justement, elle commence. Là, vous avez le système solaire de Copernic. Copernic, Galilée, connaissait le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Il y avait donc 6 planètes. Ça fait 6, ça oui. Alors une parenthèse, la Terre, bon, c'est une planète, mais avant on ne savait pas. Donc il y a 5 astres errants dans le ciel, là, c'est là, plus le Soleil et la Lune. Ça fait les 7 astres errants. Alors on dit tous les jours, si je puis dire, on devrait se rappeler qu'il y a 7 astres errants dans le ciel qu'on voit à l'œil nu. S'il y en avait 8, si les anciens avaient une bonne vue, ils avaient vu Uranus, eh bien la semaine aurait 8 jours. La semaine a 7 jours, parce qu'il y a la Lune, c'est le jour de lundi, il y a Mars, c'est le jour de mardi, c'est le jour de Mars, mercredi, c'est le jour de Mercure, jeudi, c'est le jour de Jupiter, vendredi de Vénus, samedi de Saturne, alors dimanche, on ne s'en rend pas bien compte en français, mais Sunday ou Sonntag en anglais et en allemand. Et si on avait eu 8 planètes à l'œil nu, enfin 8 astres errants à l'œil nu, il n'y en avoir que 7, le monsieur qui a écrit la Bible, la Torah, le Coran, le début, c'est les mêmes, eh bien Dieu aurait fait le monde en 7 jours, en 8 jours et non pas en 7. Et on aurait un week-end tous les 8 jours, et d'avoir tous les 7. C'est bête qu'ils aient eu une très bonne vue, parce qu'ils n'auraient pas vu Saturne, on aurait eu un week-end tous les 6 jours. Donc, le temps de Galilée et de Copernic, on a compris que tout ça tournait autour du Soleil, et on avait 6 planètes, comme ça. Ces planètes sont connues depuis toujours, puisque c'est celles qu'on voit à l'œil nu. Entre, disons, le début du XVIIIe siècle, 1705 à 1758, un certain Halley propose que certaines des comètes, dont celle qui porte son nom, appartiennent au système solaire, tournent aussi autour du Soleil, avec une orbite de ce genre-là. Alors des comètes qui ont une orbite de ce genre-là, on en connaît 400, et des comètes qui ont un autre type d'orbite, on en connaît plus de 5000. Donc, 1700, on va dire, vous avez ça écrit. 1781, William Herschel, un Anglais, découvre une septième planète, Uranus, que j'ai dessiné là, hein, vous pouvez faire la différence, toc, toc, voilà, il y a Uranus en plus. Uranus de plus. 1801, un Italien, Giuseppe Piazzi, découvre une huitième planète entre Mars et Jupiter, qu'il nomme Cérès, c'était un Sicilien, Cérès, c'est la sainte patronne dans la mythologie, sainte patronne mythologique. Alors regardez où c'est, hein, voilà Cérès, il est entre Mars et Jupiter. Huitième planète, Cérès. Et pendant une cinquantaine d'années, donc après 1801, on trouve plein de petits frères de Cérès, c'est tout ce que j'ai mis là. Et devant cette avalanche de petits frères, on dit c'est pas possible, il y a 8 planètes, il y a 9 planètes, il y a 10 planètes, etc. Eh bien, on a déplanétisé Cérès, qui est devenu simplement le plus gros d'une nouvelle famille, qu'on appelle maintenant la ceinture des astéroïdes. Et on en revient à cette planète. Donc on a déjà déplanétisé une planète, Cérès. 1846, Urbain, Le Verrier, un Français, découvre par le calcul une nouvelle huitième planète. C'est la deuxième fois qu'on trouve une huitième planète. Et c'est Neptune, qui est à l'extérieur. Neptune, là. Et en 1930, un Américain, Clyde Tombaugh, découvre la neuvième planète, Pluton. Alors on se rend bien compte qu'elle est plus petite que les autres, qu'elle a une orbite beaucoup plus elliptique que les autres et qu'elle est beaucoup plus inclinée sur le plan de l'écliptique que les autres. Mais enfin, bon, une neuvième planète. Et c'est ce que tous les vieux de mon âge ont appris à l'école, hein, il y avait neuf planètes. Alors, en 1978, on découvre un gros satellite autour de Pluton. Alors, voici la première photo. On voit Pluton et une excroissance de Pluton. Ce n'est pas un défaut parce qu'il y a un oiseau qui est caché sur le télescope. Hein. C'est vraiment comme ça. Alors, avec le télescope spatial, on est tranquille, il n'y a pas d'oiseau qui chie. Et on a pu séparer Pluton et Charon et montrer l'orbite. Donc, Pluton a un gros satellite, Charon. Alors, ils sont synchronisés. C'est-à-dire que Pluton fait un tour sur lui-même en 6 jours et demi. Charon fait un tour sur lui-même et un tour autour de Pluton en 6 jours et demi. C'est-à-dire que tout le monde montre la même face à l'autre. Comme la Lune montre toujours la même face à la Terre, ce qu'on appelle la face visible, s'il y a des habitants sur la face cachée, ils ne savent même pas qu'il y a la Terre. Et ben, par contre, comme la Terre tourne sur elle-même assez vite, tout le monde sait qu'il y a la Lune. Et ben, sur Pluton, la moitié des Plutoniens et la moitié des Charoniens ne savent pas qu'il y a Pluton et il y a Charon. Par contre, l'autre moitié, Pluton et Charon, toujours dans le même endroit dans le ciel. Alors là, c'est un petit film, c'est un vrai film qui a été fait par la sonde New Horizon en mai-juin 2015. Ils s'approchent, vous avez Pluton, vous avez Charon qui tourne là, comme ça. Et comme ils ne sont pas très différents en taille, quand on dit que la Lune tourne autour de la Terre, c'est une grossière erreur. La Lune ne tourne pas autour de la Terre. C'est la Lune et la Terre qui tournent autour de leur centre de gravité commun. Mais vu le rapport des masses et les distances, le centre de gravité commun Terre-Lune est dans la Terre. Il est à peu près à 4000 km du centre de la Terre, donc à 2300 km sous vos pieds. Mais là, le centre de gravité Pluton-Charon est un petit peu en dehors de Pluton. Donc vous avez les deux planètes qui tournent autour d'un centre de gravité qui est nulle part, quelque part, entre Pluton et Charon. Alors là, c'est pour montrer les tailles, hein, relatives, la Terre, la Lune, tout le monde connaît, 3474 km de diamètre, Pluton, 2370, donc plus petit que la Lune, et Charon, encore plus petit. Et vous voyez que les tailles relatives, Pluton et Charon, c'est du simple au double, en rayon. Alors que, par exemple, la Terre et la Lune, c'est du simple au 4 fois plus. Donc, relativement, Charon est un gros satellite par rapport à Pluton. C'est une des raisons pour lesquelles le centre de gravité est en dehors. Alors, les meilleures images qu'on avait de Pluton avant la mission New Horizons, c'était celle-là, au télescope spatial. Il y a deux ans, j'aurais fait une conférence sur Pluton, ça aurait été les dernières images que je vous ai montrées. Voilà, Pluton. Alors, on mettait un système de latitude, de longitude, pour qu'il y avait une tache claire par ici. Voilà. Alors la densité de Pluton est faible, hein. C'est 1880 kg par mètre cube. Du caillou ordinaire, c'est entre 3 à 4000 kg par mètre cube. Donc 1800 kg par mètre cube, ça veut dire que ce n'est pas que du caillou. Si c'est du caillou, et par exemple un corps léger comme de l'eau, ou de l'ammoniac, ou de l'azote, ça veut dire que c'est moitié caillou et moitié corps léger. Et comme le corps léger le plus abondant du système solaire, c'est des glaces, mais j'ai mis un S à glace, ça peut être de la glace d'eau, de la glace d'azote, et bien a priori, c'est du caillou plus des glaces. Alors, on a pu mesurer la température, c'est à peu près 40 K, moins 230 degrés. La pression atmosphérique est très faible, c'est 1 pascal. Sur Terre, c'est 1013 hectopascales, c'est-à-dire, pour simplifier, 100 000 pascals. C'est donc 1/100 000ème de la pression terrestre. C'est pas le vide, mais ça n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, voilà, le système de coordonnées, l'équateur, bon, c'est l'équateur. Comment est-ce qu'on décrit le méridien zéro? Alors, chez nous, c'est totalement arbitraire. Le méridien zéro, c'est celui qui passe par l'observatoire royal de la principale puissance maritime du 19e siècle. Donc, l'observatoire de Greenwich. Mais c'est parfaitement arbitraire. Alors que quand vous avez, par exemple, la Lune qui est synchronisée face à la Terre, le méridien 0, c'est celui qui passe par le centre de la face cachée, visible. Et le méridien 180, à l'opposé, c'est le centre de la face cachée. Donc, par exemple, là, vous avez la face qui ne regarde jamais Charon. Charon est de l'autre côté. Et ça, c'est le méridien qui est juste à l'opposé de Charon. De l'autre côté, vous avez le méridien 0, de côté de l'écran. Et Charon serait là-bas derrière. Mais comme on n'avait que ça comme image de Pluton, on peut remarquer quand même une tache claire qui est quelque part vers 180 degrés. Le problème, c'est que depuis 1992, Je rappelle, Pluton, c'est 1930. On a découvert 1, 2, 10, 100, 1000 petits frères de Pluton. Sur des orbites relativement voisines, hein, si je ne dis pas qu'elles sont comme ça. Et aussi un grand frère qui est de taille voisine, voire un peu plus gros, qu'on appelle Eris. Alors toute cette famille, comme on a nommé cette famille les astéroïdes, ceinture des astéroïdes, on a appelé cette famille soit la ceinture de Kuiper, ou la ceinture des objets transneptuniens, parce qu'elle est au-delà de Neptune. Et on remarque, c'est intéressant, qu'une partie des comètes, dont la comète de Halley, semble venir de par là-bas. Alors, quand on a pensé ça, on en a profité, après des débats très très vifs, pour définir, redéfinir ce qu'est une planète. Pour s'appeler planète, il faut tourner autour du Soleil. Être une sphère bien ronde, éventuellement un ellipsoïde. Il faut être tout seul sur son orbite, ou si on n'est pas tout seul, être le chef, commandé. Par exemple, Jupiter n'est pas tout seul sur sa planète, son orbite, il y a plein d'astéroïdes sur les points de Lagrange, pour ceux qui sont physiciens, mais c'est lui qui commande et les astéroïdes filent doux, comme le petit enfant, la cobu à papa. Pluton tourne autour du Soleil, pas de problème. Pluton est sphérique, pas de problème, mais Pluton n'est pas seul dans son secteur, regardez tout ce qu'il a. Et non seulement il n'est pas seul, mais il n'est pas du tout le chef, il obéit au gros Neptune. Quand Neptune fait 3 tours autour du Soleil, Pluton en fait exactement 2. Ce qu'on appelle une synchronisation. Et Pluton file doux, comme le petit enfant bien obéissant qu'obéit à papa. Et c'est pour ça qu'il y a eu des débats acharnés. Est-ce qu'on appelle Pluton planète ou pas? Et que non, finalement, parce que les Américains voulaient bien garder Pluton comme planète, c'est la seule qu'ils avaient découvert. Hein. Les Anglais avaient découvert Uranus, les Français avaient découvert Neptune, les Américains, plus rien du tout. Bon. Mais une commission internationale a déplanétisé Pluton en 2006, comme on avait déplanétisé Cérès au 19e siècle. Et Pluton n'est plus que le plus gros, un des deux plus gros et le premier découvert des objets de Kuiper ou des objets transneptuniens. Un jour, j'ai dit que je vais parler de Pluton, une conférence, ça serait bien. Je dis Pluton ? Mais il ne fait plus partie du système solaire, je croyais qu'il était parti. Vous voyez, déjà, donc Pluton est toujours là, il n'est pas parti. Il a simplement changer de catégorie, je sais pas, Hollande aussi, non, de Sarkozy a changé de catégorie. Alors, une consolation pour les nostalgiques de Pluton en tant que planète, si on n'est pas le chef sur son orbite, mais qu'on tourne autour du Soleil et qu'on est rond, on a droit au titre de planète naine. Et actuellement, on connaît 5 plus 1 planète naine, parce qu'il y en a une qui n'a pas encore de nom. Il y a donc Pluton, Eris, Oméa, Makemake, Cérès, qui est rond, et une planète qui n'a pas encore de nom, qui s'appelle pour l'instant 2007 Or 10, et qui sont des planètes naines. Donc Pluton est maintenant une planète naine. Et c'est la plus grosse des planètes naines avec Eris. Ils ont à peu près la même taille, vous voyez, 2300, 2400, au lieu de 2370. Alors la sonde New Horizons a été lancée en 2006, le 16 janvier. Elle est passée à côté de Jupiter, ce qui l'a accéléré. Et elle a survolé le couple Pluton-Charon le 14 juillet. Un voyage de 9 ans et demi avec la plus rapide des sondes jamais lancées de la Terre. Elle a quitté la Terre à 58 536 km. C'est une des raisons pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de poids, parce qu'on avait le choix, à partir à la vitesse ordinaire, c'est 40 000 km/h, mais on aurait mis 20 ans pour y aller. Et 20 ans, la majorité des gens qui avaient fait la mission étaient en retraite, premièrement. Et deuxièmement, Pluton serait déplacé et il aurait été une mauvaise saison parce qu'on voulait voir Pluton plutôt en été plutôt qu'en hiver et 20 ans plus tard ça aurait été un peu l'automne donc il avait bonne raison de... et c'est pour ça qu'on a privilégié la vitesse donc le petit poids par rapport au beaucoup d'expérience et le gros poids mais la lenteur et quand est arrivée Pluton elle arrivait quand même à 49 320 km/h ce qui est quand même très rapide alors voilà la trajectoire qu'elle a fait elle est partie de la Terre. Elle est vite passée à côté de Jupiter, vous voyez, elle a mis un an pour aller Terre-Jupiter, vu sa vitesse. Voyageur, qui allait pourtant très vite, avait mis 2 ans, Terre-Jupiter. Galiléo avait mis 6 ans. Mais là, on avait privilégié le poids, n'était pas pressé. Jupiter donne un coup d'accélérateur, et on est passé près de Pluton en juillet 2015, et maintenant, on est quelque part dans la ceinture de Kuiper, Kuiper Belt Object, et on va traverser cette ceinture dense à peu près jusqu'en 2020. Alors, on est en juillet 2015, On s'approche. Alors au début, on ne voyait pas grand-chose. Hein. Le Pluton était 1 ou 2 pixels, et puis Pluton est devenu 2 pixels, 4 pixels, etc. Et à partir, on va dire, du 10 juillet, on commence à voir Pluton. Alors on arrive de la Terre est très près du Soleil, donc on voit la face éclairée par le Soleil. Ce qui est de l'autre côté, d'abord on ne le voit pas, et puis si on le voyait, ce serait la nuit, parce qu'on a le Soleil dans le dos. Et donc voici Pluton vu le 10 juillet. On commence à voir des objets. Hein. Par exemple, là, vous voyez une espèce de truc qui ressemble à un hexagone, ici, vous le voyez. 10 juillet, 11 juillet, l'hexagone est là, ça tournait. N'oubliez pas que Pluton fait un tour en 6 jours, donc ça va assez vite. 11 juillet, donc là on est à 4 millions de kilomètres, là on n'est plus qu'à 2 800 000. L'hexagone a encore fait un bout de tour. Là, l'hexagone est presque disparu, l'hexagone est de l'autre côté. Et on voit pareil, apparaître quelque chose qu'on a appelé des oreilles de Mickey ou un cœur, ça dépend si on est poétique ou pas poétique. 13 juillet et 14 juillet, là c'est une photo, je crois que c'est la dernière photo prise d'un coup. Après, on est trop près pour les prendre d'un coup, on en a pris en plusieurs. Et on voit cette espèce de cœur, ou d'oreille de Mickey, comme vous voulez. Alors là, c'est une des dernières mosaïques globales disponibles en noir et blanc. On n'est plus qu'à 80 000 km. Ce n'est pas une seule photo, c'est des photos mises bout à bout, mais Photoshop fait ça très très bien. Donc, c'est une mosaïque. Et rien qu'avec ça, on s'aperçoit que le cœur, qu'on a appelé officieusement Sputnik Planum, pour se repérer, les scientifiques donnaient tout ce qu'ils voyaient des noms, souvent d'exploration ou d'explorateurs. Alors il y a Mariner, il y a Voyageur, il y a Sputnik, il y a Vega, il y a Gagarine, choses comme ça. Et cette plaine s'appelle Sputnik Planum, c'est la moitié du cœur, la moitié, on va dire, gauche du cœur. Et le cœur en entier s'appelle Tombaugh Region. Tombaugh, c'est celui qui a découvert Pluton en 1930. Et rien qu'à vous regarder cette photo, vous n'êtes quand même pas nul en géologie spatiale. Vous voyez qu'ici, il y a des cratères de météorites. Là, il y en a beaucoup. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et là, il n'y en a pas du tout. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que cette surface est très vieille. Elle a reçu plein la gueule, pas un rond. Celle-là, elle n'est pas si vieille que ça, mais enfin quand même. Et celle-là, elle est toute jeune. À cette résolution-là, on ne voit pas de cratère. Donc cette surface est toute jeune. Et ça, ça se voit comme ça. Alors, en couleur, en vraie couleur, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas beau, c'est marronasse. Bon. Mais vous savez qu'on peut prendre des photos avec des filtres colorés qui laissent passer telle ou telle longueur d'onde et faire des reconstitutions fausses couleurs qui renforcent. Par exemple, on met ce que l'œil ne voit pas en infrarouge. On peut dire s'il y a beaucoup d'infrarouge, on va mettre quelque chose. Et ça nous fait des images fausses couleurs. Voilà une des meilleures images globales disponibles en fausses couleurs. En fait, ce n'est pas trop différent des vraies couleurs, mais ça renforce les différences. Par exemple, là, vous avez de la glace qui est bleutée avec ce traitement coloré. Là, vous avez de la glace qui est orangée. Ça veut dire que ce n'est pas le même genre de glace. Ça révèle des différences subtiles de la chimie des glaces. Donc, voilà, Pluton. Et là, on voit très bien des régions avec beaucoup de cratères, moyennement de cratères, et pas du tout de cratères. Très vieux, vieux, jeune. Alors là, c'est moi qui ai fait cette image-là, de, je ne sais pas, le 16 ou le 17 juillet. Puis je la garde, un petit machin sentimental. Je me suis amusé à dessiner le système de coordonnées avec ce que disait la NASA pour se repérer. Donc le pôle Nord qui est par là. Le méridien 180 degrés qui est juste à l'opposé de Charon. Tiens, tiens, Sputnik Planum qui est tout jeune passe par ce méridien 180 degrés. Il est juste au milieu de la face opposée à Charon. C'est probablement pas un hasard. Et puis j'ai dessiné des coordonnées. Et là, c'est les images telles qu'elles sont arrivées, avec le pôle Nord qui n'était pas tout à fait en haut. Alors maintenant, la NASA a systématiquement rebasculé pour mettre le pôle Nord en haut. Des fois, moi j'aime bien mes photos telles qu'elles sont, on les avait le 15, le 16, le 17 juillet. J'espère que c'est tout ce que vous avez vu, parce que je ne sais pas ce que vous avez le 16 ou le 17 juillet, mais vous êtes évidemment fixé sur votre ordinateur pour voir les images de Pluton qui arrivaient. Donc voilà, le méridien 0, c'est vers Charon, le méridien 180, c'est à l'opposé. Alors là, c'est un petit schéma qui date d'un Nature de décembre 2016, donc il n'est pas très très vieux quand même. Voici Charon, voici Pluton, ça c'est la face opposée à Charon, avec juste au centre de cette face opposée Sputnik Planum. Là c'est Charon, qu'on va voir tout à l'heure, avec la face qui est vers Pluton. Et c'est comme s'ils étaient fixés par une barre et chacun tourne autour le centre de gravité commun qui est quelque part là où j'ai mis mon pointeur, donc ça tourne ensemble. Mais cette face-là regarde toujours Pluton, et la face qu'on ne voit pas ici regarde toujours Charon. Alors, si on faisait de la physique, on s'aperçoit que Sputnik Planum est au milieu de la face cachée, pour un charonien. On dit charonien ou charognard ? Et grosso modo, ça correspond à un minimum de moments d'inertie. Donc, c'est comme s'il y avait un excès de masse à cet endroit-là. Si vous mettez quelque chose de lourd, eh bien, quelque chose de lourd, il va se mettre à l'équateur, il y est, ou presque, et il va plutôt se mettre à l'opposé du système Pluton-Charon. Donc, ce machin-là, soit c'est une anomalie très légère, soit c'est une anomalie très lourde. Plus probablement très lourde. C'est plus stable. Mais ça pourrait être très léger. Donc, il y a une anomalie de masse. Et on a 3 chances sur 4, c'est une anomalie de masse positive. Alors, comme toujours, on peut faire des cartes. Sputnik Planum est là. Alors, les Américains ont mis des noms. Alors, par exemple, Tombaugh Regio, Sputnik Planum. Hayabusa Terra. Hayabusa, c'est une sonde japonaise qui a exploré un astéroïde. Ils ont mis des grands explorateurs. Alors, il y en a quand même un qu'on peut mater. Les Américains sont friands de Cousteau. Il y a les escarpements de Cousteau. C'est un grand explorateur, enfin pour les Américains en tout cas. Donc, vous avez les escarpements de Cousteau. C'est peut-être le seul Français qu'il y a sur l'histoire. Alors, vous avez un système de coordonnées, latitude, longitude, tout ça. Alors, évidemment, il y a la moitié qu'on connaît bien. C'est à peu près tout ce qui est au-dessus de ma baguette verte. Puis l'autre moitié, ça a été vu. Quand on est passé près, c'était dans la nuit de l'autre côté. Quand on pouvait le voir, c'était très loin. Donc, on a une très mauvaise résolution. C'est pour ça que c'est tout flou. Alors, on voit qu'il y a un beau cratère, là, un gros cratère là, mais on n'a vraiment pas beaucoup de résolution parce qu'on était loin. Donc, tout ce que je vais vous dire concerne une moitié de Pluton, grosso modo, le pôle nord, et puis une partie là, comme ça, puis plein de choses de pôle sud, en particulier, on ne connaît pas du tout. Alors ça, c'est la même carte. Voilà, on voit les régions où on ne connaît rien en dessous de 30 degrés de latitude sud. Tous les points jaunes que vous voyez, c'est des cratères de météorites. Alors, les endroits assurés, on n'a pas de bonne résolution, donc il n'y a pas de cratères, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. On n'en voit pas. Sinon, il n'y en a pas beaucoup au nord, beaucoup au sud, ça c'est normal, c'est un effet de projection Mercator. Hein. Donc, au niveau du pôle, ce méridien-là, juste au niveau du pôle, il est grand comme ça, il fait 2 cm. L'équateur est beaucoup plus grand. Mais vous voyez quand même qu'il y a des régions avec beaucoup, si on est à la même latitude, beaucoup de cratères, moyennement de cratères et pas du tout de cratères. Donc il y a vraiment une inégalité des âges, très vieux, moyennement vieux, très jeune. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors sinon, la sonde, elle faisait des études spectrales, elle reflétait l'infrarouge réfléchi par Pluton. Pluton reçoit la lumière du Soleil. Dans la lumière du Soleil, il y a de la lumière visible, évidemment, des ultraviolets, mais aussi de l'infrarouge. Une partie de cet infrarouge est absorbée, et une partie est réfléchie. Et en regardant ce qui est réfléchi en fonction de la longueur d'onde, on a une idée de la composition chimique de la surface. Alors ici, c'est 4 cartes qui vous donnent l'abondance de 4 types de glace. Je vous rappelle qu'il fait moins 230 degrés. La glace d'eau, quand c'est gris, il n'y en a pas. Quand c'est bleu foncé, il n'y en a pas beaucoup. Quand c'est bleu clair, il y en a plus. Et quand c'est vert, il y en a beaucoup. La glace de méthane, même code. Quand c'est violet foncé, il y en a beaucoup. Quand c'est noir, il n'y en a pas. L'azote, glace d'azote. Et glace de monoxyde de carbone. Et on voit que Sputnik Planum, il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup d'azote. Du méthane, mais il n'y en a pas que là. Et il n'y a presque que là qu'il y a du monoxyde de carbone. Donc, Sputnik Planum a une chimie particulière. Alors là, c'est un papier qui est sorti dans Nature le 1er décembre 2013, il y a donc 12 jours. C'est un modèle, c'est une simulation de 2 Français, qui ont dit, en fonction de ce qu'on connaît de la distance au Soleil, de l'inclinaison, de l'orbite et tous ces machins-là, si je mets de la glace, d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone partout, mais partout, posé par-dessus de la glace d'eau, Sputnik Planum, c'est un trou. C'est en 3 à 4 km plus bas que le reste. Donc il fait un peu moins froid, mais surtout la pression est plus forte. Les glaces, en fonction du climat, vont avoir tendance à se sublimer et à se déposer soit dans les endroits les plus froids, soit dans les endroits où la pression est plus forte. C'est la pression qui gagne. Et donc, quand on fait des simulations, au bout de 250 ans, la glace, vous voyez, la glace où il y a N2CH4RE a presque disparu de partout, sauf là. Et là, il ne reste plus que de la glace de méthane. 4000 ans plus tard, l'année de Neptune dure 240 ans. Donc ça, c'est au bout d'un an. Mais ça, au bout de 4000 ans, ça fait déjà au bout de pas mal d'années. Hein, d'années plutoniennes. Donc 4000 ans, c'est terrestre. La glace méthane, ammoniac, méthane, azote et CO, il n'y en a plus que là. Sinon, il n'y a plus que du méthane. Là, au bout de 10 000 ans, il n'y a plus que sur Sputnik Malom qu'il y a nos glaces méthane, ammoniac et CO. Ailleurs, elle a disparu. Si vous attendez 50 000 ans, là, même le méthane disparaît. Et il y a ce qui est sous les glaces de méthane, ice free, c'est-à-dire soit de la glace d'eau, qui n'est pas marquée ici, soit autre chose. Donc, des simulations de météorologie de base expliquent bien pourquoi on a cette répartition avec l'azote, surtout là et là. C'est un modèle. C'est le problème des modèles. C'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Mais c'est un mécanisme plausible. Ce qui ne veut pas dire qu'il est vrai, mais il est tout à fait plausible. Alors maintenant, on va visiter, je suis géologue, on va visiter Pluton. On va partir de par là. On va faire le tour comme ça, jusque par là. Puis ensuite, on fera le tour de Sputnik Planum en restant sur les bords. Puis ensuite, on foncera dans Sputnik Planum. Donc, on va faire une espèce de spirale, comme ça. Alors, donc, on commence par les points 1 et 2. 1, c'est là, et 2, c'est là. Alors, voici un détail du point 1. Un supercratère. Je pense que certains d'entre vous, si j'avais montré cette photo, auraient dit, tiens, c'est la Lune. Parce qu'on voit des cratères. Alors, c'est une très grosse erreur de dire que c'est la Lune. C'est parce qu'il y a quand même plein de failles. Et ces failles recoupent les cratères. Dont ce cratère qui s'appelle Elliott. Donc, on a plein de cratères. Certains doivent être jeunes, certains doivent être vieux. Mais les graben qui recoupent les cratères sont plus jeunes que les cratères. Donc, les graben, les failles, sont jeunes. Donc, il y a une tectonique qui, ici, est une tectonique qui fait des graben. Le géologue dirait que c'est de l'extension. C'est comme s'il y a quelqu'un qui tirait la droite vers la droite et la gauche vers la gauche. Et ça fait ces failles, comme ça. Et c'est il n'y a pas très longtemps que ça se fait, parce que ça recoupe plein de cratères. Alors, en fausse couleur, on voit que certains fonds de cratères et ce super graben qui coupe le cratère Elliott, et avec ce traitement de fausse couleur, dans les couleurs rougeâtres, rouge brique. Et là, c'était vraiment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils donnaient cette photo en disant, voilà, fausse couleur, c'est pas pareil. Et plus tard, là, c'était mis en ligne le 8 octobre 2015, donc il a fallu que j'attende le 14 juillet, il a fallu attendre 3 mois, pour dire, voilà les endroits où le spectrographe a trouvé de l'eau. De l'eau, H2O, solide. Et vous voyez que mon cratère Elliott avec mon gros graben, il y a beaucoup d'eau. Donc en fait, il y a de l'eau, de la glace qui affleure là-dedans. Ailleurs, il n'y a presque pas de glace. Mais au fond du trou, ce qui affleure, c'est de la glace. Et puis il y en a un peu là, puis il y en a un peu là. Bon, la résolution là n'est pas très bonne. Peut-être que ça va s'améliorer. Là, on n'est quand même que le 8 octobre 2015. N'oubliez pas que les photos, les données, tout arrive au compte-gouttes, comme le Minitel rose au fin fond de la Haute-Loire. Alors, toujours dans le même secteur, là, c'est une vue du même secteur, hein, cratère Elliott est juste là. Et j'avais remarqué, bon, là, il y a du blanc, je n'avais pas trop remarqué, c'est des montagnes avec de la neige dessus. Bon. Et le 3 mars 2016, la NASA nous dit, eh ben avec les spectres, on voit que cette neige, entre guillemets, ce blanc, c'est du méthane. Ça veut dire que soit il neige du méthane au sommet des montagnes, soit il y a quelque temps, tout était blanc de méthane gelé, et que ça s'évapore, enfin ça se sublime, et c'est au sommet des montagnes que les dernières neiges fondent. Et là, la NASA n'a pas bien dit si c'était de la neige fraîche ou des restes non sublimés de vieille neige de l'hiver dernier. Ce qui est entre les lignes, c'est plutôt ce qui suggère hein, de la vieille neige de l'hiver dernier, si je puis dire, qui n'est pas encore sublimée. Donc, il y a toute une météorologie martienne avec de la glace qui devient du gaz. Quant aux teintes rouges, rougeâtres, vous voyez qu'il y a une grosse teinte rougeâtre ici, regardez bien où elle est, ils disent que d'après les spectres, ça serait des polymères de méthane, ce qu'on appelle des tolines, des molécules organiques genre goudron sur une plage bretonne. Hein. Donc c'est l'état normal, entre, juste avant un nettoyage, il y a plein de machins, c'est des grosses molécules organiques, et ça donne ces teintes rougeâtres en fausse couleur, noirâtres en fait. Alors on avait vu les gravats, on va tourner, rappelez-vous qu'on fait le tour par là, le secteur 3, un festival de failles qui recoupe des cratères. Vous avez plein de cratères et c'est recoupé par plein de failles. Même conclusion, ces failles sont entre guillemets jeunes, puisqu'elles recoupent plein de cratères. Alors on continue à tourner, et là on voit une chose très bizarre, que personnellement je ne sais pas, il y a des cratères par là, qui ont des halos blancs. Alors, le secteur 4, hein, bon, je ne l'ai jamais vu, je n'avais pas quoi en faire. Et la NASA, le 21 avril 2016, les données spectrales arrivent en nous disant, ben, c'est halo blanc, c'est de la glace de méthane. Et puis, donc là où c'est violet, c'est la glace, et puis là où c'est plus sombre, c'est de la glace d'eau. Donc, pourquoi est-ce que les cratères sont entourés de glace de méthane soit parce que le bord d'un cratère, c'est plus haut, ce qui est le cas, le bord d'un cratère, c'est plus haut, donc c'est peut-être ça, l'effet altitude, soit parce que le cratère, quand il s'est fait, moi, je pense plutôt à un effet d'altitude, mais j'ai mis pourquoi avec un point d'interrogation. Et il n'y a pas ça partout. Il y a ça dans le secteur. Alors, on continue à tourner. On va visiter les secteurs 5 et 6 qui sont par là. Alors regardez, là vous avez super failles. Vous avez des cratères, là vous avez une espèce de réseau très très bizarre. Quand on voit ça, le géologue il se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors regardez. Alors la région s'appelle un nom pas possible, hein, Jangvalul. Je ne me demandais pas qui c'est. Alors, en fausse couleur, avec le traitement habituel, on voit que ce grand fossé, cette grande faille, ça serait de la glace. Il y aurait de la glace au fond de certains cratères. Là, il y a de la glace jaune, il y a de la glace gris-bleu, et il y a de la glace gris foncé. Donc, les compositions chimiques sont différentes. Et il a fallu attendre un petit moment pour, je ne sais pas marquer la date, 20 mai 2016, la NASA nous dit... Eh bien, par exemple, si on regarde là où il y a l'espèce de réseau gris qui fracture, qui entoure du gris jaunâtre, le gris jaunâtre, ici, c'est de la glace de méthane, pas tout à fait la même que tout à l'heure. Là, tout à l'heure, elle était blanche. Là, elle est gris jaunâtre. Il doit y avoir autre chose que du méthane dedans, mais il y a du méthane. Et le fond, qui est gris, qui n'est pas jaunâtre, eh bien, il n'y a pas de glace de méthane. Ils ne disent pas ce que c'est. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Toutes les photos que je vous montre sont toutes sur le web. Il n'y a aucun problème, vous... Tout ce que je vous dis, vous auriez pu le faire tout seul. Alors le secteur 6, on était là tout à l'heure. Secteur 6, on va voir, il y a toujours des graben, on va voir ce cratère-là. Et là, pour un géologue, ce cratère, regardez, il y a le même celui-là, on voit le rempart du cratère, et dans le rempart, on voit des couches. Il y en a une là, et là, pareil, on voit le bol du cratère n'est pas régulier, il y a des couches comme si Pluton était stratifié. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je peux vous dire, j'en ai pas la moindre idée. Comment stratifier une couche comme ça? Alors autre chose très bizarre, c'est si vous regardez ici, il y a comme des dunes, et des ondulations, là, comme ça. Alors, sur Terre, je dirais, ben, soit c'est des dunes, il faudrait du vent. Quand il y a un pascal d'atmosphère, le vent, ça ne déplace pas grand-chose. Hein. Soit c'est ce qu'on appelle des badlands. Badlands... C'est de l'érosion. Vous allez ça dans le désert américain, des fois il y a de l'érosion, ça fait des. Mais de l'érosion par un liquide. D'une, il faut du vent. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Enfin, il y en a peut-être, mais il ne doit pas souffler très fort. Et un liquide à moins de 130 degrés, mais même l'azote est solide depuis longtemps. Donc, gros mystère. Alors, on continue, on tourne, on va aller voir le point 7, pas très loin du pôle Nord. Le pôle Nord doit être quelque part par là. Là, vous avez Sputnik Planum dans un coin. Alors là, quand on a vu ça, tout à l'heure, on voyait des badlands, c'était peut-être des dunes, c'était peut-être des badlands. Mais je n'ai jamais vu des dunes qui faisaient des confluents pour faire des grandes rivières. Hein. Vous avez un réseau hydrographique. Comme si un liquide avait coulé là-dessus. Ce qui n'est pas possible. Alors, on s'arrache les cheveux par poignée. Et puis, on attend les prochaines suivantes, les photos suivantes, puisqu'elles arrivent, rappelez-vous, hein, Midi Tel Rose. Quand on était à la moitié de la dame, on voyait le haut, on ne voyait pas le bas, et on voulait savoir. Alors, en fausse couleur, hein, vous avez... Et vous avez vraiment du liquide qui coule, c'est pas possible, on en reparlera. Alors, je ne sais pas où j'ai mis, c'est ici, là où il y a un point A, et là il y a un point B, c'est pour vous repérer les zooms suivants. Ici, c'est près du point A, là vous avez le pôle Nord. Bon, ouais. Il y a des endroits très plats, ces réseaux hydrographiques, cette glace de chimie différente, c'est très étonnant. Pas beaucoup de cratères ici, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, mais enfin, par rapport à tout à l'heure, c'est bon, beaucoup, beaucoup plus jeune. Là, c'est le point B. Alors, vous avez quelques cratères de météorites, des surfaces creuses à fond extrêmement plat, des trous alignés à fond de glace, avec ce traitement de couleur, le rouge, c'est de la glace, je rappelle. Une morphologie, on n'a jamais vu ça sur aucune planète ou petite planète du système solaire. C'était un mois de juillet, un mois d'août fascinant. Tous les soirs, j'allais voir. On continue à tourner et on va la voir, cette région-là, qu'ils appellent les croupes du Tartare. Je rappelle que chez les Grecs, qui était le domaine où régnait Hadès, Pluton chez les Romains, mais Hadès chez les Grecs, l'enfer, ça n'avait pas de connotation les méchants. L'enfer, c'était là où allaient les morts. Et il y avait deux endroits dans l'enfer, là où allaient les méchants, c'était le Tartare, et là où allaient les gentils. Vous savez où est-ce qu'allaient les gentils? Les Champs-Élysées. Il y en a qui se croient gentils et qui en rêvent la nuit. Des champs, enfin, de l'Élysée tout court. Donc le Tartare, là, c'est les croupes des méchants, on va dire. Et c'est très étrange, alors on va zoomer là-dessus. Regardez-moi ça. Toujours ces cavités à fond plat. Pas de cratère de météorite, là. Et une morphologie, etc. Et là, vous avez une super faille. Sleipnir fossae, le fossé de Sleipnir. Alors en fait, ce fossé de Sleipnir qu'on a là, c'est un de six fossés qui font une espèce d'étoile à six branches. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Qui se croisent par ici. Alors on aimerait bien voir mieux, mais bon, on ne peut pas, on n'est passé qu'une fois. Alors avec Photoshop, on peut un peu redresser. Et on voit ces six branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui a pu faire ces failles rayonnantes à partir d'un centre par là? Je ne vous le dirai pas parce que j'en sais rien. Et là, on zoome sur ces terrains bizarres des fossés du Tartare, des croupes du Tartare, que les Américains ont appelé les terrains en peau de serpent ou les terrains en lame. Jamais dans le système solaire, on a vu quelque chose qui ressemblait à ça. Vous cherchez où vous voulez. Donc ces terrains donc en peau de serpent, et puis toujours ces dépressions à fond ultra hyper plat. Alors, ils sont là, ces fossés du Tartare, hein, ces croupes du Tartare. Mais on va bien voir ce qu'il y a derrière. Alors comment faire? La sonde, elle est passée par derrière, mais qu'elle est passée par derrière, c'était la nuit, elle n'a rien vu. Mais Pluton tourne dans ce sens-là. Donc, trois jours avant, cet endroit-là était là. Et ce qui était derrière était là. Donc, si on regarde les photos prises trois jours avant, mais de loin, on voit. Alors, c'est fou. Mais ces croupes du Tartare, elles sont là. Et ce qu'il y a derrière, eh ben, c'est là. C'est tout fou. Et on est abominablement frustré parce que c'est différent du reste. Et on aimerait bien savoir ce que c'est. Rendez-vous à la prochaine mission. Et je ne sais pas du tout quand sera la prochaine mission pour Pluton. Mais c'est pas de mal la veille, et vu mon grand âge, j'ai peur de sucer les pissenlits par la racine à ce moment-là. Alors on a fait le tour à peu près, maintenant on va faire le tour autour de Sputnik Planum, en restant plus ou moins pas très loin de la bordure. Des fois, on sera à cheval sur la bordure, des fois plutôt par là, voilà, on va voir. Alors, là on est quelque part par là. On est dans un endroit qu'on appelle les Norgay Mountains. Alors c'est une des premières photos qui est arrivée. Le 15 juillet, cette photo est arrivée. Alors tout de suite, grâce à la méthode de Galilée, on peut calculer la hauteur de la montagne. Vous savez comment Galilée a calculé la hauteur des montagnes de la Lune ? Il a regardé la longueur de l'ombre, il a regardé où c'était par rapport au Soleil, il a fait de la trigonométrie, comme je dis souvent, de mon temps, on faisait ça en troisième, maintenant en bac plus 5, et encore, avec le livre à côté, et on trouve la hauteur de la montagne, 3500 mètres. C'est un calcul de base, il suffit de savoir la hauteur du Soleil à cet endroit-là. Alors ça, c'est vachement important, parce que 3500 mètres, ça peut être plein de choses, ces trucs-là, de la glace d'azote, de la glace d'eau, de la glace de méthane, de la glace de monoxyde de carbone. La glace d'azote, à moins de 130 degrés, c'est un peu mou. Un peu comme la glace d'eau, chez nous, on a un glacier. Un glacier, ça coule. Doucement. La mer de glace avance de 150 mètres par an. Et bien, la glace d'azote, c'est pareil. Par contre, à moins de 130 degrés, la glace d'eau, c'est dur comme de la roche. Si cette montagne était en glace d'azote, elle s'étalerait comme un camembert bien fait. Comme manifestement elle n'est pas étalée, soit elle est toute jeune, cette montagne, soit c'est pas de la glace d'azote, mais de la glace d'eau. Donc tout de suite, on a dit, ces montagnes, ça doit être de la glace d'eau. Et puis on a cette plaine, regardez la limite de la plaine, elle est d'une netteté, comme si on avait une côte, avec une montagne, et puis quelque chose de mou, alors ça peut être de l'eau liquide, enfin, ou quelque chose de suffisamment mou pour s'étaler. On a du miel, ça s'étale avec comme ça. On dirait une côte. Alors, ça s'appelle les Norgay Mountains. On a cherché les explorateurs. Vous savez qui c'est, M. Norgay ? Norgay Tenzing ? Un des deux premiers hommes qui est monté à l'Himalaya avec Sir Edmund Hillary. Et les Hillary Montes sont juste à côté, hein, pas de jaloux. Alors, un mois ou deux après, ils ont donné les machins à fausse couleur parce qu'ils avaient donné spectral. Et on voit que ces montagnes, au moins à la base, sont rouges, ce qui signifie glace d'eau. Donc le raisonnement est bon. Et puis là, on voit une espèce de chose comme ça, j'appelle ça comme un nombril. On le voit, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, donc il y a des nombrils, un creux, comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Regardez-le, alors Photoshop, on peut remettre ça à la verticale. Qu'est-ce que c'est que ce nombril qui fait quand même 150 km de diamètre. C'est un gros nombril. Alors, il est là. Il y en a un autre beaucoup plus gros, mais qui était dans la nuit qu'on est passé, mais qu'on a vu dans le jour, longtemps à l'avance. Mais on a pu avoir une idée des altitudes. Et on a l'impression que ce machin-là fait 3000 mètres de haut, mais celui-là fait 5000 mètres de haut, entre là et là. Et on se dit, qu'est-ce que c'est ? Une montagne avec un trou au sommet. Il y a des gens qui disent, ça pourrait être un volcan. Alors, un volcan de glace. La roche est là. Ce qui fait au milieu de roche, c'est de la glace. Et il pourrait y avoir un volcan de glace. Et s'il y a des coulées de lave, ça serait des coulées d'azote ou d'eau. Alors, on continue le tour. Et là, vous avez les Norgay Mountains. Et puis, vous avez cette plaine plate. Puis, vous avez des montagnes qui dépassent. Alors moi, quand j'ai vu ça tout de suite, ces montagnes qui dépassent, ça m'a tout de suite fait penser à quoi ? Quand vous avez vu ces photos en juillet, vous avez pensé à quoi ? J'ai pensé à ça. Ça s'appelle des nunataks. C'est quand vous avez des montagnes qui dépassent d'un glacier, au Groenland en l'occurrence. Et bon, ça ressemble. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais si c'est ça, ça veut dire que tout ça, ça s'étale comme un glacier. Puis une montagne qui dépasse, ça fait le tour de la montagne. Voilà, c'est une nunatak vue de haut. Là, vous avez les Norgay Mountains. Et là, vous avez les îles Hillary Mountains. Hein, voilà, les deux messieurs qui ont monté l'Everest pour la première fois. Et comme des îles qui dépassent d'un machin tout plein. Et Hillary Mountains, c'est comme Norgay Mountains, c'est de la glace. Alors on continue à faire le tour. Alors là, on a les terrains qu'on a vus tout à l'heure, et là, on a des machins complètement disloqués. Il y a des gens qui se disent, n'oubliez pas qu'il y a à peu près 3000 mètres d'écart entre là et là. Ça, c'est de la glace d'eau, cassante. Ça, c'est beaucoup plus bas. C'est riche en azote et en monoxyde de carbone, donc c'est mou. Ben, on a dit, c'est comme si ce machin-là avait glissé, elle s'était cassée. C'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. On va regarder le petit rectangle et le grand rectangle. Petit rectangle, on retrouve Badlands et ou dunes. Vent et ou érosion par un fluide. liquide. Les deux sont hautement improbables. Et pourtant. Et on va regarder ces terrains qui semblent disloqués, la Spoutnik Planet Hélice. On va regarder une série de zooms par là, puis après on va regarder ce petit truc-là. La base de ces machins disloqués, c'est de l'eau. Enfin, c'en a le spectre de glace d'eau. Regardez le luxe de détails, ces montagnes. Et puis, cette plaine plate, on dirait pas qu'il y a des vagues. On y reviendra. Ou des trous, on ne sait pas trop. En couleur. Le gros des montagnes, c'est de la glace d'eau. Vu leur hauteur, c'est normal. Et puis là, j'ai envie de dire, on va aller voir ce petit machin qui est là. Moi, quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai dit, c'est un lac gelé ou asséché. Et il a fallu plus d'un an pour que quand les Américains parlent de frozen pond, pond, c'est le marécage ou le lac gelé. C'était tellement ahurissant de voir un lac gelé peut-être, mais s'il est gelé, c'est qu'avant, il était liquide, qu'ils n'osaient pas le dire. Ils le pensaient très fort, leur pensée traversait l'Atlantique, mais ils n'osaient pas le mettre. Alors regardez si on fait des zooms. Non seulement ça, mais on dirait que le lac s'est asséché et on voit les terrasses de retrait. Vous voyez, quand un lac s'assèche, on voit les terrasses de retrait. Donc là, j'ai grossi. Ça, c'est en noir et blanc. En couleur, c'est exactement la même chose. Alors moi, vous me connaissez. Est-ce que je connais sur la Terre des lacs dont le niveau baisse et on voit les fentes de retrait? Alors ce qui est génial maintenant, c'est qu'on a Google Earth. Et si on sait où chercher, on trouve. Voilà. Donc, avouez, aux couleurs près, évidemment, que là, le lac est sec, ou le fond, s'il y a encore du paléoliquide, il est gelé, mais c'est asséché. Là, c'est l'eau tibée. Alors, c'est l'été, c'est liquide, mais vous venez l'hiver, c'est gelé. Et vous avez les terrasses de retrait dues au lac qui s'assèche. Alors, c'est une convergence morphologique. C'est la deuxième fois, ou troisième, ou quatrième fois qu'on dit, mais... il a dû y avoir un liquide qui a coulé sur Pluton. Or, c'est pas possible. J'ai mis la deuxième, c'est au moins la troisième, quatrième fois. Actuellement, les conditions de surface sont... l'atmosphère, c'est surtout de l'azote, 40 degrés K, moins 230 degrés Celsius. Et la pression, 1 pascal. Sur la Terre, c'est 100 000 pascal. Et pour qu'on ait de l'azote liquide, aussi de l'azote liquide, là, il faut que la température soit supérieure à 63 K. C'est-à-dire 23 degrés de plus, et que la pression soit 1252, c'est-à-dire 1000 fois plus forte qu'est-ce qu'elle est actuellement. Il faudrait que je chauffe de 30 degrés. Bon, chauffer 30 degrés, c'est peut-être pas très difficile, mais que j'augmente la pression de 1252 fois. Pour les physiciens, c'est ce qu'on appelle le point triple de l'azote. Comment est-ce possible? Alors là, je me suis trompé, j'ai mis une quinzaine de degrés, c'est une vingtaine. Eh bien là, c'est des résultats que j'ai pris sur le web, qui datent de... faudrait relire la date là. C'est un congrès qu'il y a eu à Houston, donc il y a à peu près 6 mois, où c'est un scientifique américain qui a fait une communication à ce congrès. Ça n'a pas encore été publié dans les grandes revues, mais sa communication a été mise en ligne sur le web, donc j'ai pu le montrer. Il se trouve que l'axe de rotation de Pluton est très incliné sur l'écliptique. Sur la Terre, c'est 23 degrés 27 minutes. Et ça oscille, avec une période de 40 000 ans, entre 22 et 25 degrés. Sur Pluton, ça oscille entre 103 et 127 degrés. Et ça, ça change complètement toutes les données climatiques. Par exemple, quand c'est comme ça, le pôle Nord est presque face au Soleil, par exemple si le Soleil est là-bas, et pendant la moitié de l'année, l'année dure 240 ans, c'est-à-dire pendant 120 ans, vous avez les rayons du Soleil qui arrivent au zénith au pôle Nord, quasiment. Donc la température, au niveau du pôle Nord, peut très bien monter très fort. Par contre, au niveau du pôle Sud, c'est la nuit polaire glaçable. Actuellement, l'inclinaison est intermédiaire. C'est 120 degrés. Et le maximum, ça sera 127. Et on oscille, le minimum, c'était il y a 800 000 ans. Ça, c'est maintenant. Et ça, ça sera dans 600 000 ans. Donc, tous les... 1 400 000 ans, on a ces variations d'inclinaison qui font des variations climatiques assez extraordinaires. Alors là, c'est toujours dans cette communication, ce qu'on appelle le tropique. C'est là où le Soleil est au zénith, le jour du... Du quoi ? Du solstice, tropique nord, tropique sud. Eh bien, en fonction de l'inclinaison qui varie, la zone intertropicale, ça c'est la plus grande zone intertropicale, ça c'est la plus petite zone intertropicale. Et puis il y a le cercle polaire. Au-delà du cercle polaire, il y a des moments dans l'année où c'est le soleil de minuit, puis il y a des moments dans l'année où c'est la nuit de minuit. Et ça, c'est le cercle polaire. Et vous voyez, la chose extraordinaire, c'est que le cercle polaire peut être beaucoup plus au sud que le tropique. Ce qui va évidemment faire des choses climatiques très étonnantes. Alors là, dans cette publication, le monsieur qui a fait cette publication, il a donné à la surface de Pluton des propriétés raisonnables en faisant varier les paramètres orbitaux qu'on connaît, en particulier l'inclinaison de l'axe de rotation. Et sur une année qui fait 250 ans, donc de 1800 à 2050, il a calculé l'ensoleillement ici, l'ensoleillement là. Alors si ça chauffe beaucoup, ça fait sublimer de l'azote, ça fait sublimer du monoxyde de carbone. Mais le monoxyde de carbone est un gaz à effet de serre, donc ça augmente la température, donc ça sublime plus, etc. Et il a calculé l'augmentation de la pression, là c'est la pression, au cours d'une année plutonienne. Alors aujourd'hui on est là, et ces calculs montrent qu'on devrait être là. On est presque comme il faut, donc ces calculs ne vont pas être trop faux. Et au cours d'une année plutonienne, la pression, alors ça c'est 1 pascal, 10 puissance 0, ça veut dire 1. Ça c'est 100 pascal, c'est la pression aujourd'hui. Donc ça marche, on est bien. Donc 1 pascal c'est là, ça c'est la pression, current pressure c'est quoi ? Maximum, qui peut dépasser 100 pascal. Et au cours de l'année, donc on va de 1 dix millième de pascal à 100 pascal. N'oubliez pas que pour avoir de l'azote liquide, il faut plus de 1000 pascal. Ça c'est maintenant. Mais si on se met il y a 800 000 ans ou dans 600 000 ans à venir, l'inclinaison est tout à fait différente et les variations de pression et de température seront beaucoup plus importantes et on pourra atteindre quelque part dans l'année, mettons 50 ans sur une année, qui en fait 250, on dépassera le point triple de l'azote. Et à ce moment-là, pendant 50 ans sur une année, il y aura du liquide. Et ça arrive tous les 1 400 000 ans. Tous les 1 400 000 ans, il y a des années qui durent 250 ans, où pendant 50 ans, il y a du liquide qui coule. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est joli. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux pour expliquer. Alors maintenant, il faut que ça s'était fait un peu à la louche. Il faut quantifier tout ça, et ça va faire certainement bientôt l'objet d'une publication. Alors ça peut vous étonner que des variations d'axes comme ça puissent faire des variations climatiques aussi importantes. Oh l'axe, dis donc, on n'en est pas à 20 degrés près, hein. Eh bien sur Terre, l'axe de rotation, il varie de 22 à 25 degrés. Eh bien ces variations d'inclinaison, plus d'autres, machin, l'ellipticité qui change, etc., mais ça change aussi sur Pluton, eh bien ça fait qu'aujourd'hui, le climat à Lyon au mois d'août, c'est ça. Il y a des gens qui se promènent, les arbres ont des petites feuilles, c'est bien. Voici la Croix-Rousse, c'est le gros caillou, en été, il y a 2 ans. Pas de problème. Voici la Croix-Rousse, il y a 30 000 ans, il y a 20 000 ans. Voilà le même gros caillou. Le problème, c'est qu'il y a 20 000 ans, il y avait des rennes. Vous êtes tous allés au musée des Confluences, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau musée qui s'est ouvert. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des fossiles de rennes, mais il y a un fossile de mammouth, le mammouth de Choulan qu'on a trouvé à Lyon. C'est un mammouth à poils laineux, enfin il n'y a plus de poils, mais il n'y a que les os. Ça veut dire que le climat était un climat comme au nord de la Scandinavie. Ça, c'était il y a 20 000 ans. À cause de cette toute petite variation d'inclinaison de rien du tout. Et ça, c'était il y a 140 000 ans. Voici le gros caillou de la Croix-Rousse. Ce gros caillou de la Croix-Rousse a été amené à Lyon, à la Croix-Rousse, par des glaciers venus des Alpes. Et ça, c'est des glaciers, évidemment c'est au Groenland, hein. Des glaciers venus des Alpes, et voici la Croix-Rousse, il y a 140 000 ans. Pour des toutes petites variations d'ensoleillement. Vous voyez que des toutes petites variations d'ensoleillement, avec des effets de feedback, le CO2 et tout ça, qui peuvent faire varier le climat considérablement, eh bien, ça peut être la même chose. Alors ça, c'est la même chose. C'est Lyon, il y a 50 000 ans, vu de plus loin. La Croix-Rousse est là. Là, vous avez le Beaujolais. Là, vous avez Côte-Rôtie. Hein, là, vous avez les Alpes. Inutile de vous dire qu'il n'y aurait pas de Beaujolais et il n'y aurait pas de Côte-Rôtie avec un climat pareil. Hein. Et je ne sais même pas s'il y aurait des rennes. Le front des glaciers des Alpes était au niveau de Lyon. Donc, c'est pour vous dire des... On sait reproduire des variations climatiques sur Terre. On sait les expliquer. C'est pour ça qu'avec tout le CO2 qu'on met maintenant, on sait dire que ça va être très très grave. Il faut être con comme Trump pour dire que c'est pas grave. Alors il y a d'autres choses marrantes. Ça, c'est le maximum d'extension des zones arctiques. C'est-à-dire, de temps en temps, tout ce qui est en bleu, c'est la nuit polaire pendant des 150 ans de nuit polaire. Il n'y a que là où jamais c'est la nuit polaire. C'est-à-dire qu'il y a le soleil qui se lève au moins une fois par jour. Et un jour, ça dure 6 jours là-bas. Eh bien, regardez cette zone, ça correspond à cette bande noire où il n'y a plus beaucoup de glace, ni d'azote, ni rien de tout, sauf là, c'est tout jeune. C'est beaucoup de matière organique. Et on interprète cette bande noire en disant même l'eau a été plus ou moins évaporée, parce qu'il y a toujours du soleil quelques heures par jour, et il n'y a plus que la matière organique, le bitume des plages bretonnes qui reste. Bon, on continue. Quelle heure? Ouh, ben ça va. Toujours le bord, hein, Sputnik Plenum. Alors quand on voit ça, là, on a l'impression d'un glacier qui coule dans cette direction avec des glaciers qui coulent. Et si on regarde là, on en voit d'autres. Hein, regardez là, il y a des glaciers qui coulent. Alors on s'approche, on zoome. Regardez ça. Alors tout de suite, la NASA a dit, c'est un glacier. Et comme ça, c'est surtout le spectre de la glace d'azote et un peu de monoxyde de carbone. Voilà des glaciers d'azote qui coulent vers l'extérieur. Alors, en vue inclinée, vous avez les glaciers d'azote. Deux petits Nunataks, avec les glaciers qui font le tour. Alors, vous me connaissez. J'ai cherché des Nunataks avec des glaciers qui faisaient le tour. Voilà. Avec Google Earth, c'est quand même... J'ai enlevé la couleur pour que ça ressemble. Hein. C'est extraordinaire. Donc, ça, c'est la Terre. Ça, c'est Pluton. Alors, tout de suite, la NASA a dit c'est des glaciers d'azote avec le sens d'écoulement. Et Wikipédia, dans la semaine, il y a quelqu'un qui a fait un article, donc c'est le machin de la NASA, mais avec les trucs francisés, pour qu'on voit, glacier coulé, glace. Et puis là, on voit que dans cette petite planète, il y a des espèces de cellules qu'ils appellent cellules polygonales, on va y revenir. On se demande bien ce que c'est pour l'instant. Alors, si on regarde tous les glaciers d'azote qu'il y a par là, ben, ils coulent dans cette direction-là, comme si Sputnik Planum perdait de la glace vers l'extérieur. C'est étonnant, parce qu'il est plus bas que le reste. Donc il est plus bas, mais c'est encore un peu plus bas sur les côtés, donc il faudra chercher à comprendre. Alors on continue le tour. Alors là, autour de Sputnik Planum, toujours ces cellules polygonales, il y a ici un relief. Il y a un ou deux cratères de météorites, il y en a un là, il y en a un là. Sinon, on a une surface complètement piquetée, avec des puits. Mais chaque puits fait plusieurs kilomètres de diamètre, hein, qui ressemble à rien. Et toujours ces surfaces absolument hyper lisses et hyper plates. Alors, des fois, totalement isolé dans la montagne, des fois en communication avec Sputnik Planum. Ça communique par un petit truc. Voilà, donc, ici, donc, comme si ça c'était une mer remplie soit d'un liquide, soit d'un solide suffisamment mou pour s'étaler, et puis une espèce de golfe. Alors, vous me connaissez, pareil. Est-ce que je connais sur Terre un golfe qui a cette forme-là? Avec une... Vous en connaissez, vous? Je ne connais rien. Et les bouches de Kotor, c'est où? Hein? C'est au Monténégro. voici les bouches de Kotor. Ça, c'est l'Adriatique. Ça, c'est l'ex-Yougoslavie, on va dire. Et je me suis amusé à mettre les bouches de Kotor, Google noir et blanc, et mon lac, mon machin. Comme ça. Ah, comme s'il y avait soit un liquide, soit un fluide, un solide mou, qui s'étalait et qui remplissait. Il fait le trou. Et là, il rappelle le trou qui ne communique pas avec le Sputnik Planum. Donc, là, j'ai mis les bouches de Kotor en vue oblique, ce machin en vue inclinée. Et pour vous rappeler que ça, ce n'est pas forcément un liquide, ça peut être de la glace suffisamment molle. Et là, vous avez au-dessus du Groenland, et la glace s'étale. Il y a quand même quelques crevasses, mais enfin, elle s'étale, et ça fait comme des côtes. C'est plutôt le cas ici, parce que... Mais ça aurait pu être du liquide dans le temps. Rappelez-vous qu'il y a eu sans doute du liquide. Alors, la sortie de ce golfe semble parcourue par des glaciers. Il y en a là, comme ça. Et il y en a plein d'autres, là. Tout là, on a l'impression qu'il y a des glaciers qui sortent. Et la NASA a dit, il y a des glaciers, il y a des glaciers. Mais là, ils vont vers Spoutnik Nanum. Tout à l'heure, ils en sortaient. Là, ils y rentrent. Alors, on peut regarder, il y en a partout. Alors là, j'ai dû mettre des flèches. Toutes les flèches montent des glaciers qui sortent. Alors, là où il y a les plus beaux glaciers, c'est un peu plus au sud. Regardez ce machin-là, si on dirait pas des glaciers dans les Alpes, ça. Alors, regardez. Donc, il y a des glaciers qui viennent des montagnes, des glaciers d'azote, et qui coulent pour s'étaler vers la plaine. Et là, la direction des glaciers, c'est ça. Là, c'est comme ça. Donc, Spoutnik Bannum se remplirait. Alors, outre la condensation de l'azote, on a vu ça dans la simulation il y a une demi-heure, mais il serait alimenté par de la glace venant de ces montagnes-là, et il perdrait de la glace par là. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Et ça, comme il n'y a pas un cratère, c'est tout jeune. Hein. Peut-être qu'il y a 1 million d'années, c'était tout à fait différent. Le climat change tellement en 1 million d'années. Alors, on a vu la périphérie. Maintenant, on va regarder, on va rentrer dans la plaine elle-même. Et tout de suite, c'est des photos qui sont sorties de tout juste après le 14 juillet. On a vu ces espèces de structures en polygones. Typiquement, chaque polygone fait 20 à 30 km de côté. Hein. Et les polygones sont limités par des sillons qui souvent sont doubles, vous voyez. Alors là, toujours pareil, quand j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Toujours pareil, on se demande, où est-ce que j'ai déjà vu ça dans ma vie longue et aventureuse? Ben voilà. Il suffit d'aller à Hawaï. Surface d'un lac de lave, maintenant figé, où, à la taille près, ça fait penser à ça. Alors, ça, c'est mon lac de lave à Hawaï. Regardez l'échelle, 20 mètres. Ça, c'est peut-être la même chose, 20 km. Si on fait une hypothèse que cette comparaison n'est pas dénuée de fondement, comment on fait ces trucs-là? Ces trucs-là, c'est quand la lave dessous était encore liquide, mais bien pâteuse, qu'il y a des mouvements de convection avec des parties qui montent et des parties qui descendent, et ça fait des choses comme ça. Et en fait, voici le lac de lave que j'ai photographié en 2007. Évidemment, quand j'ai photographié en 2007, je ne pouvais pas savoir qu'en 2016, je vous ferai une conférence ou je ferai une analogie. Hein. Et voici le même lac de lave, vous avez la même montagne, photographié quand il était actif en 1959. Et vous voyez ces machins de cellules de convection qui sont là, se retrouvent comme ça. Donc là, ça sera un lac d'azote gelé, solide, mais mou, qui convecterait doucement, et là, ça serait un lac de lave terrestre à 1200 degrés, et non pas à moins 230, qui convecterait. Et voilà comment c'est maintenant. Alors, j'ai fait des conférences sur Pluton depuis quasi un an, quasiment. J'ai toujours dit ça comme hypothèse. J'ai dit, à mon avis, ça peut être que ça, parce que je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est un raisonnement par défaut. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Alors on continue. Alors à part ces sillons, certains des sillons sont remplis par une substance noire. Et puis des fois, là, il n'y a pas beaucoup de sillons, mais il y a plein de dizaines de milliers de trous. On appelle ça des puits. Le soleil vient de par là, donc tous ces machins-là, c'est des trous, ce n'est pas des bosses. Hein. Alors là, on a des zooms qui ont été mis en ligne plus loin. Regardez les sillons, le noir, les trous. Les sillons doubles, le noir, et les piquetages de trous partout, partout, partout. Regardez ça. Alors, la NASA dit, mais je ne peux peut-être être d'accord avec elle parce que j'ai rien de mieux à proposer, ces trous, c'est des figures de sublimation. C'est de la glace d'azote. Au-dessus, la pression est très faible. Et en plein midi, en plein soleil, la glace d'azote a quand même tendance à se sublimer. Bien sûr, elle va se recondenser la nuit, mais elle ne va pas forcément se recondenser là. Et ce truc-là, c'est interprété comme des figures de sublimation, et on ne voit pas mieux pour l'instant. Alors, je me suis amusé, ça c'est des trous sur Pluton, sublimation. Aussi la même chose, alors ce n'est pas toujours la même échelle, hein, ça c'est chaque trou fait 500 mètres, là les trous ils font 10 mètres, mais c'est à la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko, ma conf de l'an dernier, où on a ce même genre de trous, qui là sont interprétés par les Européens, comme des figures de sublimation. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Alors là, luxe de détail. Et pour les gens qui aiment les inconnus, voici le X de Pluton. Alors, la chose la plus ahurissante, c'est quand on s'approche de la côte, côte entre guillemets, les trous deviennent alignés comme des chapelets, de colliers de perles. Alors, pour la beauté, je vous en montre. Couleur. Si vous avez une belle explication, vous me le dites. Hein, moi, je ne sais pas trop. Qui aurait pu penser qu'il y a ça sur Pluton, qu'on pensait à un astre mort avant de dire Pluton, c'est tout petit, il n'y a rien. Beaucoup de gens disent une mission sur Pluton, ça sert à rien, il n'y a rien à faire là-bas, circuler. Alors, autre point morphologique, alors avec de l'imagination, on trouve ce que les Américains appellent des windstreaks, des traînées éoliennes. Il y avait des petites bosses là, des petites lunes d'attaque, peut-être. Et derrière, il y a des traînées sombres. Dans la même direction, toujours. Oui, toc, toc. Alors, le fait que ces traînées sombres sont dans la même direction, toujours pareil, est-ce qu'on connaît ça quelque part sur Terre ou ailleurs? Alors sur Terre, ben, quand vous avez un obstacle et puis du vent, et ben, derrière l'obstacle, on va déposer des particules très fines. N'oubliez pas que le vent, la pression est en 1 pascal, il ne peut transporter que des machins hyper fins. Mais ces traînées, ça pourrait être ça. Surtout qu'on en connaît ailleurs, par exemple là c'est sur Triton, satellite de Neptune. Il y a des geysers sur Triton qui crachent des saloperies diverses et variées. Et là, il y a du vent. Et les traînées noires crachées par les geysers sont toutes parallèles. Et là où c'est le plus beau, c'est sur Mars. Où pareil, il y a des geysers actifs à chaque printemps, en hémisphère sud. Et vous avez des traînées noires toutes parallèles à cause du vent. Pareil, la pression sur Mars, elle n'est pas très forte. Hein. Et ça suffit pour faire ça. Est-ce que c'est ça sur Pluton? J'en sais rien. Et là, c'est une nouvelle interprétation du secteur oriental, où il y avait mes glaciers, que l'équipe Murison a mis en ligne sur le web le 4 février. Et ils disent, il y a des glaciers. Dans Spoutnik Planum, il y a des collines. Mais les collines sont concentrées au niveau des sillons. Et regardez, là où il y a les sillons, il y a plein de collines. Et entre les sillons, il n'y en a pas. Et là, les collines occupent tous les sillons. Ils disent, ça... Ces collines, c'est des radeaux de glace d'eau. La glace d'eau, c'est un petit peu moins, plus léger que la glace d'azote, qui sont arrachés par les glaciers qui sont là et qui flottent sur la glace d'azote. C'est ce qu'ils disent. Alors, si c'est vrai, on peut faire un calcul. La hauteur des montagnettes, là, c'est 500 mètres. S'ils flottent, ils doivent être mobiles parce qu'ils sont déportés vers les sillons des cellules de convection. Les cellules de convection, c'est comme ça, les sillons, c'est là où ça rentre. Ils sont déportés là où ça rentre. Donc, ils ne sont pas coincés, donc ils flottent sans toucher le fond. Sinon, ça raclerait. Alors, on applique le bon vieux principe d'Archimède et de Blaise Pascal, programme de seconde de montant. Vous avez une montagne, 500 mètres, densité de la glace d'eau, 930 kg par mètre cube. Vous avez la glace d'azote, 1030 kg par mètre cube. Sachant la hauteur de ce qui dépasse, vous calculez la hauteur de ce qui est en dessous. Programme de seconde, maintenant programme d'agrégation de physique, et vous trouvez 4650 mètres. Ça veut dire que dans ce secteur, la couche de glace d'azote sur lequel flotteraient ces radeaux de glace fait, on va dire, au moins 5000 mètres d'épaisseur. Et là, toujours dans la NASA dit, ce même mois de février 2016, les polygones sont des cellules de convection. C'est la première fois qu'ils l'écrivent. Avant, ils le pensaient très fort, mais ils ne l'écrivaient pas. Dans l'azote gelé, mais mou. Donc, ça monte au milieu de la bosse. Ça redescend au niveau des sillons. Et les radeaux d'H2O, les radeaux de glace d'eau, s'il y en a un qui se trouve là par hasard, amené par les glaciers, il est déporté sur les côtés. Mais comme il est plus léger, il ne s'enfonce pas. Donc, il y a concentration de ces chaînes de collines comme ça sur les bords. Qualitativement, c'est très beau. Et là, j'ai fait ce dessin pour essayer d'illustrer, sachant que la couche de glace qui convecte fait au moins 5 km d'épaisseur, d'après Blaise Pascal et Archimède, et la taille des cellules, c'est 20 à 30 km. Alors, ils ont publié dans une Nature du 2 juin 2016 un calcul théorique. Ils ont essayé de voir si c'était raisonnable et vraisemblable qu'il y ait de la convection dans une couche d'azote d'au moins 5 km d'épaisseur, vu tout ce qu'on peut savoir sur le soleil qui chauffe par en haut, la chaleur venue d'en dessous, à cause, il fait toujours plus chaud en haut qu'en bas. Ils ont fait des calculs, c'est compliqué parce que ce n'est pas de la glace d'azote pure, il y a du méthane, il y a du monoxyde de carbone, etc. Je vous passe les équations. Et le résultat, c'est que la convection est possible si, en fonction des hypothèses des pires qu'ils ont pris, il suffit, dans l'hypothèse la pire, que ce soit plus que 300 mètres d'épaisseur, la plus favorable, plus que 1500 mètres d'épaisseur, et si c'est encore plus, c'est encore mieux. Or, on a 5000 mètres d'épaisseur, donc, théoriquement, c'est normal que ça convecte. Ça doit convecter avec des hypothèses raisonnables, et c'est ce qu'on interprète, donc on est très content. Alors, en prime, ces polygones, on s'aperçoit qu'ils sont plus petits sur les bords que sur le milieu. On voit très bien que plus la glace est épaisse, plus la convection doit faire des grandes cellules. Donc ici, ça serait plus épais, et là, plus mince, l'épaisseur de glace d'eau, de glace d'azote. Alors un dernier résultat, 30 juin. Là, c'est un traitement d'optique parce que ces photos ont été prises à deux angles différents. Ils ont fait un traitement d'optique, mais là où c'est lisse, où c'est clair, gris, ça veut dire que c'est lisse. Et là où c'est gris plus foncé, ça veut dire que c'est plus rugueux. Plus rugueux, c'est qu'il y a plus de puits de sublimation. Et globalement, si c'est de la convection, la glace est jeune au milieu, et puis elle vieillit, puis elle disparaît, et ça colle avec une glace jeune au milieu et vieille. Donc toutes les observations actuellement à notre disposition, plus tous les calculs théoriques actuellement à notre disposition, nous disent que très vraisemblablement, ce qui se passe dans ce boutique malum, c'est quelque chose comme ça. À l'état solide, mais mou. Alors, pour finir la partie solide, un petit film, une petite animation, qui résume tout ça. C'est la NASA qui l'a fait, évidemment. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est joli de le voir bouger. Alors, on reconnaît mon lac asséché, mes figures d'érosion, mes glaciers qui sont par là. Ouais, la Spoutnik planote dans toute sa gloire. C'est quand même beau, Pluton. Hein? Bon, on a presque fini. Revenons en juillet 2015. La sonde est arrivée par devant. Elle est passée sous, si je puis dire, Pluton. Et puis ensuite, elle est derrière Pluton. Elle a vu la face nuit de Pluton. Mais en passant, elle était juste à côté des Norgay Mountains. Elle l'a vue de très près. Alors voilà les Norgay Mountains vus, donc quand il passait, comme ça. Là, ensuite, il s'est retourné, il a regardé ça à contre-jour. Et regardez comme c'est beau. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit l'atmosphère qui est très faible, 1 pascal. Mais cette atmosphère très faible est structurée, il y a des couches. Donc il y a toute une... je ne suis pas du tout atmosphéricien, mais il y a toute une dynamique de l'atmosphère, et ça fait des photos à couper le souffle, comme tellement que c'est beau. Vu de plus loin, cette atmosphère. Vu d'encore plus loin. Alors la dynamique de l'atmosphère est marrante. Là, il y a un liseré très clair qui disparaît. Donc l'atmosphère, je ne sais pas ce que c'est que ces liserés, hein, mais ils ne sont pas parfaitement parallèles à la surface. Il y a des histoires complexes. Là encore, il y a les atmosphériciens vont s'en donner à cœur joie. Alors on est derrière Pluton. On s'éloigne. Et on voit le Pluton dans la nuit. Et là, la NASA, ils sont quand même très forts. Ils ont décidé, il y a 10 ans avant le lancement, de faire passer la sonde exactement dans la nuit pour que le Soleil soit totalement caché. Donc, il y a une éclipse de Soleil par Pluton pour la sonde. Pourquoi ? D'abord, on ne verrait rien de jour, on ne verrait que l'atmosphère. Donc on est passé comme ça, là il y avait Pluton, et on est passé juste derrière, dans la nuit. Comme ça, là, on arrivait par là, Pluton est quelque part là. Donc à 12h on est passé, à 13h on était dans la nuit, enfin dans l'ombre. On a continué, Charon était là, on a photographié Charon d'un peu plus loin, et à 14h on est passé dans l'ombre de Charon. Pourquoi faire ça? D'abord pour faire des belles photos. Bon, c'est pas le but. En vraie couleur, la diffusion sur l'atmosphère est bleue. C'est une lumière bleue. Et ça, les physiciens, avec ça, ils peuvent trouver la taille des particules, la densité des particules. C'est pas que du gaz. Il y a des petites poussières de givre, des aérosols de quelque chose là-dedans. Donc, et puis surtout, Si vous regardez le Soleil, vous êtes Pluton, vous avez une caméra, vous regardez le Soleil. Quand vous êtes derrière Pluton, ben, il n'y a rien. Mais quand vous commencez là, le Soleil traverse l'atmosphère. Alors on savait que l'atmosphère depuis la Terre faisait une certaine taille. Mais on a vu que la lumière commençait à baisser bien avant, c'est-à-dire que l'atmosphère, très ténue, est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande qu'on le pensait. Et cette courbe de décroissance de la lumière permettra, ce n'est pas encore publié, de remonter un gradient de température, un gradient de pression. Et ce qui marche pour le Soleil, ça marche aussi en sens inverse. La sonde émet des signaux radio, dont on connaît parfaitement l'intensité, la fréquence et tout ça. De la Terre, on les écoute. Quand la sonde est derrière Pluton, on n'émet rien du tout. Mais là, quand la sonde est passée derrière Pluton, on a vu le signal radio qui diminuait, diminuait et s'éteignait. Et la façon dont ça a diminué, là également, les atmosphériciens vont pouvoir remonter au gradient de pression-température et ça va être publié. Il y a des résultats, mais pas tous, qui ont été publiés dans un Science du 18 mars 2016. Et il y en aura d'autres qui vont venir. N'oubliez pas que les dernières données sont arrivées le mois dernier. Il ne faut pas oublier que Pluton n'est pas seul, et qu'il forme un couple avec Charon, Pluton et Charon. Oh, ça va. Il me reste 10 minutes. Voici Charon, vu de 466 000 km. Il y a peu de cratères, mais il y en a à peu près partout pareil. Donc la surface n'est pas très vieille. Sur Pluton, il y a des endroits avec beaucoup plus de cratères que ça. Mais c'est beaucoup plus variable que ça sur Pluton. Là, c'est à peu près partout pareil. Alors là, c'est la vraie couleur. Là, vous avez un super canyon, Serenity Chiasma, 10 km de profondeur. Là, vous avez Argo Chiasma, de 7 à 9 000 mètres de profondeur. Alors celui-là, c'est dommage. On le voyait quand on s'approchait et qu'on est passé très près. Plutôt, on est tourné, on ne l'a plus vu. En fausse vraie couleur, en vraie fausse couleur. Différence subtile de chimie des glaces. Vers le pôle Nord. C'est beau quand même. Hein. Alors, les cratères, il n'y a pas d'endroit, alors il y en a de moins en moins vers le pôle, mais ça, c'est un effet de projection, mais il n'y a pas d'endroit, franchement, sans cratère. Voilà. Donc, c'est vraiment une autre géologie différente. Il n'y a pas l'équivalent de Sputnik Planum. Sur ce, ça, c'est la face qui est vers Pluton. La face à l'opposé de Pluton, on ne l'a pas vue, elle était dans la nuit. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est quelque part par là. Alors là, détail de ce super canyon, 700 km de long, 9 km de profondeur. C'est quand même... C'est des dimensions à la Valles Marineris sur Mars. Là, l'autre super canyon... Et j'appelle ça les nombrils. Vous voyez, je vais parler de la technique. Regardez là. Là, c'est un nombril avec une hernie. On viendra tout à l'heure. Regardez ce super canyon. Alors là, la NASA nous a donné les cartes d'altitude. Entre le bas et le haut, il y a 11 km. Et si on regarde en détail, il y a comme qui dirait des glissements de terrain. Là, ça a glissé, là, ça a glissé, là, ça a glissé. Ça, c'est une publication qu'ils ont mis en ligne il n'y a vraiment pas longtemps. Alors là, c'est en vue verticale. Et là, c'est en vue oblique. Et vous avez le glissement de terrain qu'on fait ça. Et ça semble plus à du glissement d'un terrain un peu mou. Comme si c'était plus la coulée de boue qu'une avalanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vous montre quand même le super nombril avec la super hernie. Qui s'appelle la hernie s'appelle Kubrick Mons. Comme Stanley Kubrick. Alors on a refait avec Pluton, Charon, la même manip, la sonde est passée derrière pour voir la façon dont le Soleil s'estompait et dont le signal s'estompait pour la Terre. Et là, c'est paf, brutalement, il n'y a pas d'atmosphère. Charon n'a pas d'atmosphère, Pluton en a une. Alors quand on est juste derrière, on ne voit rien, il n'y a pas le beau machin bleu. En photoshopisant à mort la photo brute, je suis arrivé à faire ça. Et encore, je me demande si ce n'est pas du bruit. J'ai pris la photo brute, la NASA me donne les photos brutes, et puis on renforce un maximum. Alors, il y a quatre petits satellites, tout petits, tout moches, tout sans intérêt. En voici deux, ouais, Nix et Hydra. Pas grand-chose à dire. Alors, la suite. Donc jusqu'en novembre 2016, l'arrivée des données. Elles sont toutes arrivées, maintenant il faut les traiter. Et puis on est parti par là. On a donné un petit coup d'accélérateur pour un tout petit peu dévier. Et le 1er janvier 2019, on va survoler 2014 MU69, on dirait la vieille plaque minéralogique d'une voiture de Lyon, qui est un petit objet de Kuiper. C'est le seul qui était atteignable avec le carburant qui restait pour dévier. Donc le 1er janvier 2019, on va survoler cet petit objet de Kuiper qui fait 45 km de diamètre, qui n'a pas encore de nom officiel, il y en aura un, mais pour l'instant c'est 2014, parce qu'il était trouvé en 2014, MU69. Et il est temps de conclure. Alors, rappelez-vous, chez les Romains, Charon nous conduisait aux enfers sur sa barque. Voici Charon. Les enfers, avec le coin des méchants, le Tartare, et le coin des gentils, les Champs-Élysées. Et puis, on payait Charon. C'est pour ça qu'on mettait une pièce dans la gueule, dans la bouche du mort avant qu'on l'enterre. Charon, si on l'avait bien payé, nous conduisait aux enfers. Et aux enfers, c'était la fin de l'histoire, c'était Pluton. Et voici Pluton, où régnait les enfers, c'est la fin de l'histoire. Et bien avec New Horizon, c'est la première fois qu'on observe la ceinture de Kuiper, et c'est le début d'une nouvelle exploration. C'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Alors pour ceux qui me connaissent, j'aime toujours bien mettre des allusions sexuelles dans mes conférences. Pluton, c'était pas facile, alors j'ai cherché des tableaux montrant Pluton Hadès. J'ai rien trouvé celui-là, on voyait bien ses couilles, alors je l'ai mis. C'est pas forcément le plus beau, mais quand même, vous voyez, les couilles de Pluton. Il n'est pas bien monté, mais enfin bon. Et Pluton caresse son chien, c'est Cerbère. Alors ici, on voit deux têtes, il en a une troisième quelque part. Hein. C'est Pluton. C'est une histoire qui commence. Et je vous remercie de votre attention. Je suis un vieil enseignant, je sais planifier les trucs. Y a-t-il des questions? J'espère qu'il y a des questions. Alors, il doit y avoir des micro-baladeurs. Il faut lever la main très fort pour attirer l'attention des gens qui ont des micro-baladeurs. C'est pas tellement, si vous parlez fort, je vous entendrai, mais c'est enregistré, etc.
Ouais, Pierre fait tout le travail, on n'a plus rien besoin de faire. Donc les deux micros sont sur les côtés. Hein. Levez bien la main.
Il y en a une là-haut. Ben, attendez que le micro arrive.
Et si j'ai bien compris, ce n'est pas certain, vous avez dit qu'il y a des terrains assez jeunes, oui, qui n'ont pas de cratère.
Oui.
Qu'est-ce qui explique l'évolution des terrains, des vieux terrains vers les jeunes? Alors, c'est une évolution comme sur la Terre, non?
Non. Alors, le tout jeune, Sputnik Planum, a priori, c'est de la, si la simulation est faite, c'est de la condensation. Au cours d'une année de quelques milliers d'années, l'essentiel de l'azote et du monoxyde de carbone qui se trouve plus ou moins partout se condense là. Mmh. Et au cours d'une année, il y a des époques où il a tendance à se sublimer et d'autres à se condenser. C'est pour ça que, et en plus, comme ça se convecte, c'est pour ça que c'est tout jeune. Cette convection, elle fait, je ne sais pas, elle met peut-être 10 000 ans à se faire. Donc en 10 000 ans, on n'a pas le temps d'avoir des cratères. Hein. Mon petit dessin que j'avais fait, là, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Hop, 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 on y arrive. Si vous mettez 10 000 ans pour faire ça, vous sortez, c'est de la glace toute fraîche, toute jeune, et puis 10 000 ans plus tard, elle retombe. 10 000 ans, c'est peut-être 100 000, hein, peut-être même un million, ça ne me gêne pas. Donc, il n'y a pas le temps de faire des cratères là-dedans. Ça, c'est facile. Pourquoi dans les terrains où il n'y a pas ça, où il n'y a pas de lac qui sera asséché, il y a quand même des terrains avec plus de cratères et d'autres avec moins de cratères, donc c'est vieux, mais plus ou moins vieux, je suis incapable dans l'état actuel de vous dire pourquoi. Alors une autre question, c'est pourquoi des fois il y a plein de failles. Alors là, dans une publication qui est sortie il y a 10 jours, il y a quelqu'un qui fait un Américain, sorti de Nature, qui a fait des calculs auxquels j'ai rien compris. C'est vraiment de la physique hard. Il dit que Sputnik Planum, ça a été un gros cratère qui est tombé n'importe où, mais certainement pas au milieu de la face cachée à l'équateur. À moins que Dieu ait particulièrement visé ce coin-là, mais c'est pas pour lui. Donc il est tombé n'importe où. Ça fait une anomalie de masse. On est 3 chances sur 4 qu'elle soit lourde, une chance sur 4 qu'elle soit légère, on ne sait même pas. Et la mécanique fait que cette anomalie de masse aurait migré, entraîné, a fait tout basculer Pluton pour l'amener dans sa position actuelle. Ce faisant, Pluton, il est allongé dans la direction de Charon, parce qu'il y a les marées, il a plus la forme d'un ballon de rugby, avec le grand axe dirigé vers Charon. Si vous faites un trou, quelque part, là où le ballon de rugby est presque plat, et que vous l'amenez sur la pointe, le rayon de courbure augmente et vous faites de la tectonique. Il a fait des calculs auxquels j'ai rien compris. Et il a dit, si je mets le cratère qu'a fait Sputnik Manom à tel endroit, je fais tel trajet et je fais quelque chose où il y a moins de 30 degrés d'écart avec les failles que je vois. Donc c'est une possibilité de faire des failles. J'ai rien compris, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous résume le résumé. Mais il faut que je me planche là-dedans, mais je ne suis vraiment pas assez physicien, c'est vraiment de la physique hard. Mais c'est d'un Nature, vous pouvez aller à Nature, et si vous comprenez, vous m'expliquerez. Y a-t-il d'autres questions ? Là. Alors, je rappelle que je n'ai jamais travaillé sur Pluton, c'est une interprétation personnelle de données NASA.
Vous avez dit, pardon, qu'il y a de la matière organique. Or, de la matière organique sur Pluton. Vu les conditions de température, j'imagine que ce n'est pas de la matière organique biologique.
Non.
Elle vient d'où ?
Alors, matière organique, c'est une vieille définition. Les chimistes devraient la changer, mais ils ne la changent pas, c'est comme ça. Ce qui signifie molécule contenant du carbone réduit, c'est-à-dire carbone et hydrogène. À chaque fois que vous avez une molécule contenant du carbone réduit, les chimistes appellent ça matière organique. Pourquoi ? Je peux vous dire pourquoi ils le disaient. C'est parce que jusqu'en, on va dire, 1850, les seules molécules contenant du carbone et d'hydrogène qu'on trouvait à la surface de la Terre étaient faites par la vie. C'était l'urée, tout ces machins-là. Par la vie vivante, le sucre, l'amidon, les acides aminés, ou la vie en fossile, le charbon, le pétrole et tout ça. On ne connaissait pas de molécules carbonée réduite avec carbone hydrogène, fait autre chose que la vie. On appelle ça la chimie organique. Il y avait la chimie minérale et la chimie organique. Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais dans les années 1850, on a synthétisé pour la première fois une molécule organique, au sens que je viens de vous dire, l'urée. C'est Friedrich Fowler, un Allemand, qui a pris de l'isocyanate de potassium et du, des substances parfaitement minérales, et il a fait de façon abiotique des molécules carbonées réduites. On aurait dû donc changer le nom, puisqu'on pouvait faire des molécules organismes sans organisme. Eh bien, le nom n'a pas changé. Les chimistes étaient routiniers. Il y avait la chimie minérale, la chimie organique, et c'est resté. Mais chimie organique ne veut absolument pas dire chimie biologique, c'est chimie du carbone réduit. Ai-je répondu à la question ? Voilà. Y en a-t-il d'autres ? Là-haut.
J'ai été surpris de voir des impacts de météorites sur la face visible entre Pluton et Charon. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se protègent pas l'un l'autre ?
Bien sûr que non. Est-ce que la Terre protège la face visible de la Lune des cratères ?
Non, mais il y a une grosse différence de taille entre la Terre et la Lune.
C'est vrai. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que ça protège ? Calculer la section efficace. Et de toute façon, tout ça tourne. Mais sur ce, on a vu un côté de Pluton, on n'a pas vu l'autre.
Il y a peut-être plus de cratères.
Il y a peut-être plus. Mais qu'il y en ait, c'est parfaitement normal. Tous les satellites du système solaire, sauf un, sont synchronisés. Donc tous ont une face visible pour leur satellite, une face cachée. Io, Ganymède, Callisto, Titan, tous. Et ils ont tous des cratères sur les deux côtés. Et ce n'est pas le face visible, la face cachée où il y en a le plus. Il faut que je vais tourner, faire un dessin. Ça, c'est pas grave, c'est Jupiter. Et moi, je suis Ganymède, par exemple. Je tourne autour de Jupiter en, je sais pas, un mois. Je tourne sur moi-même en un mois aussi. S'il y a une face visible, une face cachée, c'est que je fais un tour autour du Jupiter. Pendant que je fais un tour autour de moi-même, là, je vous regarde. Un quart de tour autour de Jupiter, j'ai fait un tour. Donc, je fais comme ça. Là où il y a plus de cratères, c'est ce côté-là. Parce que je tourne autour de Jupiter, par exemple, et j'ai toujours ce côté-là qui est devant, par rapport à mon mouvement. J'ai ce côté-là qui est derrière, par rapport à mon mouvement. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé sous la pluie, mais il y a plus d'impact de gouttes d'eau sur la vitre avant que sur la vitre arrière. Et bien, c'est pareil sur Jupiter et Saturne, on connaît les deux faces. Il y a un peu plus de cratères sur la face, non pas visible ou caché, mais sur la face avant versus la face arrière. Ici, je ne sais pas si les gens ont fait... Alors, on connaît une moitié de Pluton, et il y a la moitié qui est une face avant et la moitié qui est une face arrière. Et quand on regarde, ce n'est pas flagrant. Je n'y ai pas compté. Mais Pluton, a priori, ne va pas protéger Charon. La preuve, c'est qu'on les voit, les cratères. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, là. Il y en a deux, même. Presque voisins.
Votre sonde, là, elle est active jusqu'à quand?
Alors, un réacteur nucléaire qui fournit l'énergie, et en 2020, elle marchera très bien. Sauf problème technique. Alors après, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a rien de prévu, mais ils essaieront sans doute, si ça ne coûte pas trop cher, le problème, ce n'est pas de la faire marcher, c'est de l'écouter. Pour voir, parce qu'elle va faire des analyses, les analyses les plus intéressantes qui seraient à faire, c'est le champ magnétique et tout ça. C'est pour ça, par exemple, que les voyageurs marchent encore, ils sont partis en 77, parce qu'ils sont très, 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 très loin du système solaire. Ils sont en train de franchir la magnétosphère, la magnétopause, supermagnéticien, tous ces machins-là. Mais ils ont des magnétomètres, et ce que n'a pas New Horizons. Je ne sais pas si New Horizons a des choses intéressantes à faire dans le confin du système solaire. Si elle n'a rien d'intéressant à faire, eh bien, ils ne l'écouteront plus. Hein? Parce que pour l'écouter, il faut prendre un grand radiotélescope, et donc des grands machins de 100 mètres de diamètre, et ça prend du temps, de radiotélescope et de l'argent. Si elle n'a rien à dire, voilà. Donc je ne peux pas vous dire, mais le réacteur nucléaire va marcher à un bon moment. Hein. Ce n'est pas un réacteur nucléaire comme chez nous, hein, et avec de la chaleur qui fait tourner une vapeur, simplement du plutonium, un plutonium non fissible d'ailleurs, qui chauffe, parce qu'il est radioactif, comme celui qu'il y a dans Seul sur Mars. Et comme il est chaud, et que dehors il fait froid, mais plein de thermocouples, ça fait du courant. C'est un générateur nucléaire sans pièces mécaniques. Donc ça tombe beaucoup moins en panne que s'il y avait des turbines et tout ça. Puis une machine à vapeur là-haut, ce serait pas facile. Y a-t-il d'autres questions? Il y en avait une juste devant.
Pluton a-t-elle un cœur actif qui serait induit par la gravitation avec Charon, bien sûr?
Alors, non. Pas dans cette forme-là, parce qu'ils ont chacun autour de l'autre une orbite parfaitement circulaire. Donc, il n'y a pas, contrairement à Io autour de Jupiter, par exemple, une ellipticité forcée. Il est seul, Charon, autour de Pluton. Enfin, ils sont seuls tous les deux. Donc, il n'y a pas d'ellipticité forcée. Au contraire, là, les orbites sont parmi les plus circulaires possibles. Donc, les marées, ça ne marchera pas. Sur ce, il y a quand même du caillou, donc de la radioactivité. Et par exemple, pour faire fondre du caillou sur Terre, il faut les chauffer à plus de 1200 degrés. Pour faire fondre de l'azote en profondeur, il suffit de chauffer à moins 240, moins 220. Donc peut-être qu'il y a une activité, il n'est pas exclu qu'en profondeur, il y a un océan d'eau liquide, sous quelques centaines de kilomètres, comme on a sur Ganymède, Titan, etc. Ce n'est pas exclu, mais il n'y en a pour l'instant aucune donnée, ni qui l'exclut, ni qui le prouve. C'est une possibilité. Autre question? Là. Et là en bas aussi. Quand vous applaudissez, ça ne s'entendait pas, mais quand vous applaudissez pas. Oui?
Est-ce que Pluton perd de la matière? Et quel...
Alors... Là, je ne peux pas répondre comment. Il y a de la glace qui se sublime. Alors, il faudrait calculer, ce que je n'ai pas fait, la vitesse d'agitation moléculaire de l'azote à 30, 40 ou 50 K. N'importe quel étudiant devrait savoir le faire. Même moi, j'ai dans mes cours, je ne connais pas les formules par cœur, mais ça se trouve. Il n'y a personne qui connaît les formules, la vitesse d'agitation moléculaire, c'est un racine de M, c'est comme ça. Il n'y en a pas qui connaissent? Bon, une fois que vous avez la vitesse moyenne d'agitation de molécules, vous calculez la vitesse de libération. Sur Terre, c'est 11 km par seconde. Je pense que sur Pluton, c'est beaucoup plus faible sur Pluton, mais je ne sais pas si cette vitesse de libération est supérieure ou inférieure à la vitesse d'agitation des molécules d'azote. Mais vous m'auriez envoyé la question hier, je vous aurais fait le calcul sans problème. Je demande à ce que mes étudiants sachent le faire. Mais je leur donne les formules, parce que apprendre des formules par cœur, je préfère qu'ils comprennent plutôt qu'apprendre par cœur. Donc je ne peux pas répondre à la question. Il y avait une question par là-bas.
Oui, bonsoir. Comme Charon n'a pas d'atmosphère, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ait eu la même origine que la Lune, par un choc d'astéroïdes?
Il y a des gens qui le disent. Bon, ça n'a rien à voir avec l'atmosphère ou pas d'atmosphère. C'est que là, la gravité à la surface est encore plus faible. Et si on mettait de l'azote, il partirait. La formule que j'ai donnée tout à l'heure, ça donne une vitesse moyenne des molécules. Et si donc, ils sont répartis, une vitesse pas moyenne, une répartition des vitesses. Et les vitesses maximum, c'est à peu près 10 fois la vitesse la plus probable. Alors l'azote reste sur Pluton, ce qu'il en reste. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc tout ne part pas, s'il en part, il en part qu'un peu. Mais sur Pluton, qui est quand même beaucoup plus petit, la gravité est beaucoup plus faible, et l'azote, s'il y en a eu, elle est complètement partie. Si vous en remettiez, là la gravité est trop faible pour qu'il en reste. Donc je ne pense pas que ça soit une histoire. La Lune aurait une atmosphère si elle avait une masse super... Parce que quand la Lune s'est faite, avec Théia qui est rentrée dans la Terre, même si la Terre avait eu une atmosphère à l'époque, c'est il y a 4 milliards et demi d'années, ce choc aurait déshabillé complètement la Terre vis-à-vis de son atmosphère. L'atmosphère de la Terre, l'eau de la Terre, est venue après le choc qu'a fabriqué la Lune, par les comètes et les chondrites carbonées. Donc les deux sont tombés sur la Terre et sur la Lune. Le problème sur la Lune, la gravité est trop faible pour retenir, par exemple, de la vapeur d'eau à 120 degrés. Et le jour, il fait 120 degrés sur la Lune. Donc à 120 degrés, quand vous faites le calcul, la vitesse des molécules est largement supérieure à la vitesse de libération, qui est de même pas 2 km par seconde sur la Lune. Donc ce n'est pas une histoire de collision. Sur ce, il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que ce couple qui est unique, avec un satellite qui est plus gros que la moitié de la planète principale. Déjà sur la Terre, c'est 4 fois plus petit, la Lune par rapport à la Terre en diamètre. Là, c'est même pas 2 fois plus petit. Donc, c'est vraiment encore plus unique. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas normal et on fait appel à une collision. Mais de là à le prouver. Mais l'hypothèse est sérieuse.
Merci.
Oui, bonsoir. Vous disiez que Pluton avait une forme, en gros, de ballon de rugby. Enfin,
oui,
bon, j'imagine. Voilà. Quelle est la différence estimée de diamètre entre le plus grand et le plus petit diamètre?
C'est connu, mais je ne peux pas vous répondre comme ça.
Aucune idée, même en pourcentage.
Je peux vous dire, sur la Terre, à cause des marées dues à la Lune, ça, c'est 1 ou 2 mètres. Même pas. Mais si on faisait au repos, si on le laissait longtemps, ça serait 1 ou 2 mètres. Mais la Terre monte, mais on n'a pas le temps d'atteindre la marée haute, que déjà elle baisse. Mais vous montez, vous descendez de 20 cm toutes les 6 heures, je ne sais pas si vous le savez. Bon. Sur Io, c'est 7 km. Mais Jupiter est quand même costaud. Là, je ne sais pas. Mais ce n'est certainement pas un secret, ça doit être connu, mais je ne sais pas. On devrait demander qu'ils posent leurs questions à l'avance, que je cherche dans la littérature. On ne peut pas tout savoir par cœur. Y a-t-il d'autres questions? Là-haut, il y en a plein. Il y en a au moins 2. Verte et orange. Alors, on commence par la question. Ah non, question verte.
Est-ce que quelque chose d'autre a été prévu avec la sonde?
Ben oui. 2014, MU69. Donc, en 1er janvier 2020, vous savez quoi faire pour votre nuit de réveillon. Je ne sais pas quelle heure ça va passer. Vous aurez le passage près d'un objet de Kuiper. Alors, vu le délai de transmission, avec sa petite antenne, etc., les images n'arriveront certainement pas le 1er janvier, mais dans les jours qui viennent. Mais c'est un petit truc qui n'est sans doute pas très exaltant. Et sinon, non, il n'y a rien de prévu, à part 2014, MU69. Ouais.
Oui, j'ai une question vraiment de détail. Au bord du Sputnik Planum, il y a des sortes de coulées qui ressemblent un peu à des glaciers,
oui,
qui vont vers l'intérieur, et d'autres un peu plus haut qui iraient, oui, vers l'extérieur. Et alors qu'elles aillent vers l'extérieur, c'était un peu contre-intuitif. Vous disiez,
oui,
que peut-être le milieu était un peu moins bas que les bords. Et alors comment on sait qu'elles vont vers l'extérieur? Parce que moi, sur les photos, ça ne m'a pas paru flagrant du tout.
Ah ben, moi je ne suis pas glaciologue, mais même moi, il n'y a pas de problème. Hein. je ne sais pas où ils sont. Ça ressemble tellement à des glaciers que... J'ai souvent, quand on me pose des questions comme ça, je ne sais pas si vous avez une mère, si vous avez une tante, je suppose que vous avez une mère, ça c'est assez fréquent. Une tante, j'ai aucune idée si votre mère a une sœur. Mais admettons que votre mère a une sœur, c'est de la famille, vous reconnaissez sans problème votre mère de votre tante, sauf si c'est des jumelles. Parce que vous les connaissez. Un géologue, il se cueille un glacier, il sait dans ça. Bon, prenez quelqu'un qui connaît la peinture, il connaît sans problème un Manet d'un Van Gogh. Prenez un papou qui n'a jamais vu ni l'un ni l'autre, expliquez comment on fait pour reconnaître un Manet d'un Van Gogh. Là, c'est l'expérience. Alors, est-ce que je vais retrouver mes glaciers? Bon, là, il n'y a pas trop de problème, parce qu'ils viennent de là, ils coulent, on voit le front. Regardez là, il vient forcément de là, et là, il y a le devant. Donc là, il y a... C'est ceux du haut, effectivement. Alors, on va voir si on les voit. Eh bien, vous avez des lobes comme ça. Et quand vous avez des lobes comme ça, ben c'est que ça pour... Là, il y a des coulées. On va essayer d'enlever les... Vous voyez, un machin comme ça. Là, il y a une attaque. Ça tourne autour d'une attaque. Ça vient comme ça, ça vient comme ça. C'est que ça vient du haut vers le bas dans cette photo. Voilà. C'est évident, comme pour moi, Léonard de Vinci, c'est pas un Picasso, quoi. Mais c'est pas très satisfaisant comme réponse, hein, je suis d'accord. Avec ce nul attaque, je vois pas comment on aurait un glacier, dont, un machin dont le front ferait ça, s'il venait pas de là, s'il venait de comme ça... Quelle rotation? J'en sais rien. Je vois pas le rapport. Vu quand même, il fait un tour sur lui-même en 6 jours. La glace, vous imaginez la force de Coriolis, je ne sais pas à quelle vitesse ça peut aller, si c'est comme les glaciers alpins, ça fait 100 mètres par an. La force de Coriolis, quand vous faites un tour sur vous-même en 6 jours, elle est nulle. Coriolis ne va rien faire. Si vous pensez à Coriolis, je ne sais pas si vous pensez à Coriolis. Non, alors si on regarde mieux, alors en vue comme ça, là vous avez un truc, vous avez le... Je sais pas, il y a ça qui continue, puis il y a le bord de ça. Vous voudriez que ce soit ça qui coule en faisant le tour comme ça, qui revienne... Non, c'est pas... Je sais pas. À 8h, à 9h moins 10, j'ai du mal à répondre mieux. Mais... Ah bah. Y a-t-il encore des questions? Là. Là, deux.
Bonsoir. Du coup, par rapport à cette différence, donc d'un côté, on a des glaciers qui s'écoulent des fjords, et là, on a la glace qui part vers le...
Ouais.
Qui s'en va du lac, on va dire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce mouvement?
Alors, les premiers qu'on a trouvés, c'est ceux-là. Alors, on a dit, il y a de la glace qui coule vers les bords. Ça veut dire que Spoutnik Mam se remplit. Alors on dit, soit il se remplit parce qu'il neige, c'est possible, rappelez-vous les simulations, soit il se remplit parce qu'il y a de la glace d'azote qui sort de dessous, une espèce de volcanisme azoté. Les simulations montrent qu'on n'aurait pas besoin de faire venir de la glace par-dessous, puisqu'elle viendrait de l'atmosphère dans les périodes froides. Et puis quand on a vu les glaciers qui arrivaient de l'autre côté, s'il neige beaucoup d'azote sur les montagnes, on va dire orientales, eh bien... Il se remplit peut-être par la condensation, mais il se remplit aussi peut-être parce que les glaciers, les montagnes orientales, qui seraient plus hautes que ces montagnes-là, le remplissent. Alors il se remplirait par la neige et par l'est, et il se viderait, conditionnel d'usage, par le nord. Mais bon, on n'a pas besoin de faire venir de la glace d'en bas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en vient pas. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose, on n'a pas besoin de cancer, et pourtant ça existe. Voilà. Alors, derrière, oui.
Vous utilisez tellement les similarités,
oui.
Et les raisonnements par analogie pour expliquer ce que l'on voit sur Pluton.
Oui, sur toutes les autres planètes, on essaye de faire ça.
Et les autres planètes. Est-ce que ça ne justifierait pas qu'on reclassifie Pluton comme planète?
Pourquoi?
Quand elle a été déclassée il y a quelques années, au moins par respect par le brave homme qui l'a découvert.
Voilà. Mais si vous prenez un satellite comme Ganymède, on applique le même raisonnement, Si vous prenez la Lune, il faudrait que je vous fasse une conférence sur la Lune, on applique le même raisonnement. Je sais que les mers lunaires, avant qu'on ramasse des cailloux, c'était du basalte, que c'était fluide. Par analogie avec, c'était confirmé quand on y est allé. Et c'est pas parce que les lois de la nature sont les mêmes sur la Terre et sur Pluton qu'il faut que Pluton soit une planète. Ça n'a rien à voir. Les lois de la nature, la gravité tombe vers le bas, la glace s'afflue du haut vers le bas. La glace d'eau à moins 230, ça flue pas. La glace d'azote à moins 230, ça flue. Quand il y a une montagne, on fait le tour. C'est pas une histoire de planète ou de pas planète, ça. Parce que, à chaque fois qu'on a trouvé Pluton, il était tout seul. Puis on a trouvé un premier objet de Kuiper. Ah, tout de suite, la science est à venir, qui a dû dire, ouais, une dixième planète. Puis on en a plus de 1500, dont un plus gros. On a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le schéma qui est à la fin de toutes les classes, si on mettait à chaque fois toutes les planètes, à chaque fois qu'on en découvre une, il faudrait changer le poster toutes les semaines. Donc l'éducation nationale n'a pas le budget. C'est une galéjade. Hein. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il faut pour une planète ? Est-ce que tout ce qui tourne autour du Soleil est une planète ? Quand on a trouvé les astéroïdes, la première fois, on a dit... Vous étiez là au début ? Non, voilà. J'ai expliqué tout ça au début. Je vous demande ça parce que vous êtes assis sur l'escalier, donc vous êtes arrivé en retard. Bon. J'ai expliqué tout ça au début, et ça sera mis en ligne sur le site du muséum dans les semaines qui viennent. Pour être appelé planète, il faut être seul sur son orbite ou maître sur son orbite. Et plutôt, on n'est ni seul ni maître.
Bonsoir. J'avais entendu dire, alors je ne sais pas du coup si c'est vrai, c'est ça la question, que le brave homme qui a découvert...
Clyde Tombaugh, oui.
Qui est décédé donc depuis très longtemps.
Je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est mort. Hein. Il a découvert ça en 1930, et il est mort assez vieux, je ne peux pas te dire quand, mais il est mort. Mais il n'y a pas longtemps.
Et bien justement la question c'est, j'avais entendu dire que ses cendres étaient à bord du New Horizon, mais ça m'étonne puisque vous dites qu'il y avait le moins de matos possible.
Oui, alors ses cendres, peut-être pas toutes, mais si on met un milligramme de cendre, c'est symbolique à ces histoires-là, c'est tout à fait possible qu'on en mette un tout petit peu. Sans compter qu'on n'a pas mis un magnétomètre, parce que c'est pas lourd un magnétomètre. Mais pour mettre un magnétomètre, il faut le mettre au bout d'une grande perche, pour qu'il soit loin de la sonde. Et c'est pas le magnétomètre qui est lourd, c'est la perche, par exemple. Mais donc, magnétomètre plus perche, ça fait peut-être, je dis n'importe quoi, 20 kilos. On ne pouvait pas mettre 20 kilos. Mais on pouvait peut-être mettre 1 ou 2 grammes de Clyde Tombaugh. J'en sais rien.
C'est classe.
Mais j'en sais rien. Y a-t-il d'autres questions ? Là, une dernière, pour qu'elle soit bien. Hein.
C'est la dernière. Dans les molécules que vous avez citées, il n'y a pas le CO2. Est-ce
parce qu'ils n'ont pas vu le spectre du CO2.
Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de CO2.
Il n'y en a pas ou suffisamment peu pour que ces raies spectrales soient noyées. Et j'avoue que je ne connais pas la différence d'emplacement des raies spectrales du monoxyde et du dioxyde de carbone. Et s'il y en a un qui est 10, les raies spectrales sont voisines, et s'il y en a un qui est 10 fois plus abondant que l'autre... C'est une technique de spectroscopie infrarouge. Je n'ai jamais vu qu'il l'avait vu. Voilà, donc... Mais peut-être, n'oubliez pas que les ultimes données sont arrivées il y a un mois. Donc, là, c'est un brouillon préliminaire que je vous raconte. Voilà.
Eh bien, Pierre, un grand merci pour cette prestation, ce spectacle.